la guerre, oui, guerre est déclarée à la planète Terre. Invasion immédiate par les zones hertziennes et la première arme.
Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 26 avril 2014. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec John of Dead, et à 17h, FMR, c'est de l'ampleur, l'antenne à Booster FM sur le 89.1 MHz. Mais dans les médias, voici le magazine de ça, de jardinage que vous attendez tous.
Précédemment, dans le supplément week-end...
On a carrément en fait des artisans qui font ça avec leurs petites mains et c'est des pièces uniques, hein, c'est des pièces qui sont magnifiques. Moi, le costume que là que qu'on vous a préparé pour la trilogie Noob, j'en suis particulièrement fière depuis le design en fait, les dessins jusqu'à le produit final, c'est juste énorme.
Radio FMR présente le supplément week-end. Le magazine des cultures geek en modulation de fréquence analogique.
C'était Lady Tron, Playgirl.
Non mais connard quoi.
Franchement tu te barres alors que tu devais faire la speakerine.
Mais c'est quoi cette musique de merde en fait?
Lady Tron, Playgirl, je viens de le dire.
Ah d'accord.
Voilà. Bonjour et bienvenue. Bonjour Infested Grunt.
Bonjour Xavier.
Bonjour du sport.
Bonjour.
Bonjour là-haut Aquino. Bon ouais, il s'est barré. Bonjour et bienvenue, c'est le supplément week-end numéro 384. Alors, pour ceux qui ont loupé la semaine dernière, nous étions en pré-enregistré dans les conditions du direct. OTGS Spring Break et on s'est quand même bien éclaté. Vous venez d'écouter donc un extrait de l'interview de Gaia et Couette qui sont les deux stars féminines de la web-série Noob qui est en train de tourner son
film.
Triple long métrage. D'ailleurs, ils ont passé un week-end assez malheureux en fait. Ils ont expliqué sur Twitter qu'ils avaient prévu de tourner sur un bateau, un vieux gréement et tout ça. Effectivement, les photos sont superbes, sauf qu'il pleuvait. Et que la mer était houleuse. Et que la moitié de l'équipe a repeint la mer. Voilà. Ça n'a pas dû être la joie. Il y a eu, entre autres, parmi les autres interviews qui étaient franchement intéressantes, Les Passagers d'Anachron, qui est une troupe de théâtre steampunk, où en fait ils font à la fois du décor et des scénettes. C'était vraiment intéressant de ce côté-là. Chloré du magasin Saveur et Harmonie, qui est professeur de thé. Et j'ai été surpris quand même comment l'ensemble du cast a écouté religieusement Ultimatum tout, et Morgan, ils étaient là, oh, ouais ouais super et tout. Ça a fait plaisir, d'ailleurs c'était Enflammé pour une fois qui a mené l'interview. Il y avait aussi, outre donc Noob, Nicolas Horvat, qui est pianiste professionnel, passionné de jeux vidéo et qui faisait reprises des musiques orchestrales de Final Fantasy. Il y avait aussi donc un représentant de l'association FX Predator qui est spécialisé dans les effets spéciaux, dans les maquillages ou la création de faux propres, donc des personnages à échelle humaine tirés d'univers de fantasy, donc Iron Man, Predator et tout ça. C'était vraiment très impressionnant. Et au final, et du sport, j'espère qu'il a apprécié. Alain Carazé.
Ah bah oui, quand même. Bon, oui.
Ça valait le coup de faire une émission de 2h30.
Ça fait plaisir. Hein.
Ça fait plaisir, c'était vraiment pas mal. Ouais. Malheureusement, on est vraiment désolé. On a eu un petit souci à l'enregistrement qui s'est déclenché en plein milieu. On a ce qu'on appelle un gros bruit de masse. Voilà. Mmh. On a essayé de le gommer. Donc la qualité est pas super, mais ce qui fait que vous entendez ce bruit de rasoir qui couvrait complètement le son quand même, sachez-le.
Il n'est jamais content.
On a essayé,
il
on est désolé.
Coup...
Mais c'était super, mais c'était super.
Perfectionniste.
Hein. Ouais. Mais il faut, il faut. Mais quand même.
Je sais bien.
Bah, on est sur Radio Éphémère, un coup ça marche, un coup
ouais.
ça marche pas.
Ouais, mais au moins l'interview d'Alain Carazé, c'était pas le truc de fan. Je suis allé dans le truc qui fâche.
Ouais. Ouais. C'était peut-être pas la partie la plus intéressante de l'interview, à mon avis.
Au fait, pourquoi tu m'as calé au PC sécurité de Diagora? Je voulais voir moi aussi.
Mais oui, c'est vrai que est-ce notre que... pauvre Infoset Grunt était en direct du couloir de la mort à assurer le
non, mais
point
franchement,
route.
Je comprends pas ce besoin de taper systématiquement sur les gens et tout, fût-il mauvais quoi ou ignare.
Je tapais pas sur lui.
Non, mais disons bon, ok quoi. Quand
lui,
même.
Je le respecte, tu je vois, l'adore. Quoi.
On va, pas, fait, on il... va pas tomber dans le mépris à la Yann Barthès dans
ah
le
non.
petit journal quoi, quand même.
Non. D'ailleurs, il a sorti pour en revenir à Alain Carazé, il a sorti une excellente chronique sur Yahoo sur donc la différence de porosité entre cinéma et série aux États-Unis, en Angleterre et en France. En France, c'est pas la peine quand tu es dans une série, c'est fini pour toi. Et c'était super intéressant, c'était pas mal.
Il me semblait qu'il y a un truc, c'est pas Taxi, non le... ah, c'est un film qui devait.
Non,
une série,
non.
Pardon,
quand on, quand les acteurs, tu essaies de
ah, oui,
les faire passer de l'un à l'autre, ou même les réalisateurs en soi. Ouais.
Enfin, on va dire que il a pas tout à fait tort, il a raison quand
non,
même.
Non, mais il a raison, c'est ce que j'ai
non,
dit.
Il
oui.
a raison, mais il y a quand même des exemples
des
qui peuvent prouver le contraire. Je veux rien dire, mais bon.
Joss Whedon.
Comment?
Joss Whedon.
Joss Whedon. Bon,
non, non ça, mais on te parle en France.
Oui, non, mais
ah,
je parle
quoi.
Ouais. Le côté français.
En anglais,
côté français, Jean Dujardin est l'exemple plus.
Bah, ouais. C'est la rareté. Hein c'est la rareté.
Bon, voilà.
Omar Sy.
Omar Sy, enfin bon, voilà.
Eric Cador, mais on va en parler tout à l'heure. Voilà. Bon. Entre autres. Qu'est-ce qu'on fait? On sort les poubelles de suite?
L'agenda, c'est ça?
Oh non, je pensais à la revue de presse.
Ah bah non, pas tout de suite là. Je suis en train de trier les listes. Alors, justement quoi, dans le style poubelle, ça faisait longtemps. Mais...
Oh là là, mais qu'est-ce que tu as allé chercher comme truc?
Alors, regarde,
National
Enquirer. Ouais, en couverture, Brad Pitt, Angelina Jolie.
Oh, stop, pas si vite du sport. Il faut expliquer une chose à nos amis, pour ceux qui ne paient pas leur redevance couleur et qui ne suivent pas sur
mais
le
justement,
stream.
Justement, je décris.
du sport à un journal en papier en main. Mais c'est pas n'importe quel journal, c'est peut-être ce qu'il y a de plus mauvais en presse écrite aux États-Unis.
Ah non. Alors là, je suis pas d'accord avec toi du tout, du tout, du tout, quoi. Beaucoup copié, mais jamais égalé.
Ah. L'original, tu veux dire. L'original, tu veux dire.
Voilà, c'est l'original. En fait, ni trop trash, ni trop soft. Entre les deux, pour satisfaire le cœur de cible. Et surtout, bah, un tirage assez exceptionnel.
Bah, attends,
c'est ça qui vaut, quoi, justement, quoi.
Mais c'est pas le New York Post.
Non, c'est le National Enquirer.
Oh, punaise.
Et non, oui, non, le NI Post, il est immense. Hein, oui, c'est un format berlinois.
Alors, donc, en couverture, Brad et Angie avec leurs 6 enfants, adoptés, bien sûr, dont surtout celui de gauche.
Ah oui, c'est non, c'est la pas loupé.
Non, mais celui, c'est celle de gauche, parce que c'est Nana, quoi, aussi, hein, ou non, c'est le mec, ça, avec le t-shirt ACDC.
Oui.
Carrément, quoi. Alors, c'est pas mal. Alors, je suis tombé, entre autres, sur l'article où il est dit que David Letterman, donc toi, tu es au courant, Xavier, c'est clair, il arrête à la fin de cette saison parce que, bon, 32 ans, c'est bon, ça suffit.
Et il est remplacé là, par Colbert.
Ouais, et puis que là, à 24 millions de dollars l'année, quoi, dernier salaire.
Ah oui.
Non, mais c'était justifié.
Il peut se dire que c'est cool. Oui. Bon, il a déjà eu des problèmes physiques, hein. Il a déjà fait 2-3 crises cardiaques. Il a un diabète de type 2. Enfin bon, ça va, quoi, côté santé, mais c'est normal, quoi. C'est un mec qui se ménage pas. Et bah, il doit s'occuper également de leur petit enfant de 10 ans qu'ils ont eu avec sa femme actuelle. Faut dire qu'également, quoi, ben bah, le Radio Musical, Radio City Musical, City Musical.
Voilà, c'est
où il enregistre tous les jours, donc son show.
C'est un ancien théâtre qui est devenu un studio de radio et qui est devenu un studio de télévision, et c'est là où CBS produit une partie de ses programmes quotidiens, du moins ceux de divertissement, donc notamment entre autres les programmes du soir, mais il y a aussi les programmes du matin et ceux de journée, les vous savez, les trucs là de j'ai trahi mon mari avec une banane ou ce genre de choses, voilà.
Ouais, mais comme lui il habite dans un petit patelin paumé dans le New Jersey, quoi, qui est situé à 100 miles de l'endroit où il bosse.
180 km, ah ouais.
Non, 160 des poussières. C'est pas des 1000 marins. C'est des 1609-1852. Retiens ces deux chiffres et après t'es jamais perdu.
Perso, moi j'y suis allé, j'ai vu le bâtiment à New York. Bon, ils sont juste en face des bureaux de CBS. Hein.
Bah, il fait un peu art déco en plus, quoi.
Oui,
hein,
c'est l'époque.
Je me rappelle pas quand il a été construit ce truc. Enfin, il a été construit il y a pas mal de temps, quoi. Donc, il est assez mignon. Donc, tout ça pour vous dire que ton pote Dave Letterman laisse la place aux jeunes.
Oui, à Stephen Colbert, hein, qui est de Colbert Report, qui était aussi correspondant senior chez John Stewart pour le Daily Show. Le tout sur Comedy Central. Yes.
Voilà, donc c'est... En fait, il se retrouve à la même heure, mais sur la chaîne mère. Voilà. Sachant qu'il va abandonner son personnage de journaliste inculte, éditorialiste d'extrême droite et tout ça. Enfin, à mon avis, il va l'abandonner pour faire donc l'interview un peu servage de soupe et tout le reste. On attend de voir.
Ouais, moi, j'attends surtout la première parce que je me souviens qu'il avait fait un truc avec Jimmy Fallon lorsqu'il était arrivé sur le Late Night.
Jimmy Fallon avait parié $100 avec tous ses copains qu'il arriverait au créneau d'avant. Donc, c'est justement le même créneau.
Voilà.
Et
Colbert... la différence, c'est que là, tu passes de Comedy Central, qui est plutôt une chaîne plutôt câble, à CBS, qui est quand même la chaîne, le réseau national.
Ouais, mais bon, attention, il n'y a plus qu'une différence. Je crois que CBS, l'audience moyenne, 10 millions. Et Comedy Central, c'est 4 millions. C'est un peu comme si LCI faisait la moitié de l'audience de TF1.
Ouais.
Ou TF6. TF6, tiens, justement. Mais on en parlera tout à l'heure. mais c'est pour donner un peu un ordre d'idée. Aux États-Unis, c'est extrêmement développé, justement, le câble. Et c'est très cher.
Voilà. Donc, on continue avec cette petite revue de presse, National Enquirer. Alors, j'ai la photo. J'ai les deux photos qui tuent. On savait que Neil Patrick Harris, il avait avoué, il a fait son coming out et tout, donc de ce côté pas de problème.
Et les gars, j'aime bien les PC.
L'un des acteurs fétiches de Joss Whedon, l'acteur vedette de How I Met Your Mother, entre autres. Et ben là, ça y est, il a franchi le pas. c'est lui là à gauche hein, la blonde là.
C'est sûr ?
Ouais, c'est la blonde hein, ouais. Absolument, absolument.
Attends, attends, passe-moi le bouquin, passe-moi le bouquin là, parce que là j'ai...
Non, 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 mais attends, en fait, je vais t'expliquer quoi. Tout simplement, bien, il reprend le rôle d'un célèbre drag queen qui s'appelle Angry Hedwig. Hedwig, le célèbre drag queen, et ça a donné lieu à une comédie musicale sur Broadway et tout. Et donc là, bah, il reprend le rôle, donc il peut enfin se payer le rôle au théâtre, quoi, oui. Sur les planches, donc de jouer ce personnage. Juste à côté, t'as le petit arrière, le petit derrière de Kim Kardashian, mais ça, bon. Tout le monde.
Non, tu vois, l'avantage qu'il y a, c'est que ça, au moins, on le voit ailleurs, mais en version française sur Gala.
Tout à fait, tout à fait. Par contre, ben, il y a quand même un article qui fait deux pages, enfin quatre pages, quatre pages concernant justement ben, ce qu'on voit en couverture, à savoir la vie Inside Their Bizarre World. C'est comme ça qu'est titré cet article qui raconte un petit peu la vie de famille de tous les jours, hein, de la marmaille des Brad et Angelina Jolie, quoi. Avec bon le fait qu'ils dépensent environ 4 à 5 millions de dollars par an, ne serait-ce qu'en pour les enfants. Attention, rien que pour les enfants, mais uniquement en ce qui concerne le salaire des nounous. Chaque gosse a deux nounous principales plus des nounous qui sont là pour remplacer. 10 000 dollars par mois. Il y a également les gardes du corps qu'il faut payer pour protéger les gosses, bien sûr. Là où ils habitent, leur résidence principale, quoi, à Los Angeles, les gosses ont chacun leur petite maison, quoi. Le couple a la sienne.
C'est digne du nounou d'enfer, quoi.
Ah oui, oui, mais c'est magnifique, hein, de toute façon, quoi. C'est
et rappelle-moi combien de gosses ils ont,
magnifique.
D'ailleurs.
Bah, ils en ont 6 adoptés, ah, quoi, ouais. Justement, quoi. Mmh. Et là, bah, justement, t'as le truc. Alors, c'est elle, ah, effectivement, qui a le. Elle est namibienne, quoi. Enfin, elle est adoptée en Namibie, quoi. Donc. Et c'est elle qui porte le t-shirt ACDC. Alors bien sûr, National Enquirer en fait une tonne, des tonnes, je dirais, sur le fait que les gamins, bah, ils sont un petit peu turbulents, ils foutent le why. C'est-à-dire que bon, bah, quand ils vont bouffer une pizza, quoi, dans une pizzeria et tout, t'as les gamins, ils montent sur la table et puis ils balancent des bouts de pizza à la gueule. Des gosses, quoi, tu vois, quoi, tranquille. Mais que t'as Brad Pitt, Angelina qui sont là. Oh ben non, ils s'amusent, c'est tranquille et tout.
Alors que les gamins, ils débattent. Ton truc, ça fait penser.
Ils sont fait foutre dehors en l'espace de 2 ans de 12 hôtels, quand même. Ouh. Ce qui est pas mal.
Combien de raisons les interdisent?
C'est quand même pas mal. Et sur les, du côté éducation, alors bon, bah, ils étudient au lycée français, à Los Angeles. Ah. Ils sont obligés de parler français à la maison. Et en plus, ils sont obligés, ils parlent bien sûr en plus leur langue natale. Alors bon, bah le premier, le plus Maddox, quoi, lui, il vient du Cambodge. On a également Pax Tien qui vient du Vietnam. Bon bah Shiloh, quoi, j'en ai parlé, c'est Zelka, le t-shirt ACDC. Il y a la petite Zara Marley qui vient d'Éthiopie. Nox Leon qui vient de France.
Quoi ?
Et Vivienne Marcheline qui est née en France également, quoi.
Ah.
Et c'est là que c'est le plus étonnant. Justement, justement, quoi. Alors, c'est assez rigolo, quoi. C'est pas mal, quoi. Bref, c'est, histoire. Et puis bon, ils insistent aussi sur le fait que Angelina a des crises de jalousie, des trucs comme ça et tout. Ça, ça date pas d'hier et tout, quoi. Et que Brad, même s'il le dit pas et tout, il aime bien fumer un petit pétard de temps en temps et tout, même si Angie, elle aime pas et tout, quoi. Et que bon, il boit de temps en temps tranquille, sans problème, mais qui s'adonne plus à ces beuveries qu'il avait l'habitude de faire quand il sortait avec ses potes, George Clooney, toute la bande et tout, quoi. Enfin bon, les habitués, quoi. Voilà, tout ça. Donc,
il y en a qui.
Et je vous passe les pires, hein, avec Lindsay Lohan.
Non,
et tout
non,
ça,
non,
parce que
non,
bon,
non,
là,
on n'arrive pas à te couper. On n'arrive pas à te couper.
Vraiment.
Et il y en a, il y a un audit spectateur qui me demande, est-ce que c'est pas le National Enquirer, est-ce que c'est pas le journal fondé par William Randolph Hearst. Et j'ai le temps de te poser la question, j'ai dit presque, c'est pas exactement
c'est possible,
ça.
Possible, mais
le canard de Citizen Kane.
Non, 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 ouais, mais en fait non, c'est par un de ses protégés, c'est William Griffiths qui l'a fondé en 1926. Ça s'appelait à l'époque The New York Evening Enquirer. Merci la wiki.
Ouais, c'est à ça que ça sert. Hein.
Oh mon dieu.
Adrienne.
Oh merde.
Jamais Alix.
Eh, hey, tu sais, regarde.
Je m'excuse.
Il est en train de te montrer ce truc.
Je m'excuse.
Il est en train de te montrer ce truc, quoi. Et moi, je viens de revoir Men in Black 2, tu sais. Alors moi, quand on présente un
stylo,
quand on présente un stylo comme ça, je me méfie, quoi. Attends, il faut que je me rappelle de certains trucs encore d'ici la fin de l'émission.
Vous écoutez Radio FMR sur 89.1 MHz. Il est 12h19, c'est le suppléant week-end. Et on est qu'à la moitié de la revue de presse.
Quoi?
Bon, on continue dans les trucs chiottes là.
Non, je peux que regarder là.
Il y a aussi la possessivité de Ryan Reynolds parce que.
Je parlais de l'autre.
L'autre.
Il a 11 ans de différence. Ils ont 11 ans de différence avec Blake Lively, quoi. Alors que lui, bon, bah, ok, 37 ans, il se dit, ouais, un petit gamin serait cool, un enfant. Alors qu'elle, bah, elle dit, non, je suis peut-être un peu jeune.
On s'en fout.
Bah, c'est pas
je
grave.
Je te parlais du truc là. La nouvelle revue.
La nouvelle revue. On change enfin. Radicalement avec un numéro 1
en nombre de QI perdu, oui, c'est clair, on change radicalement.
SoFoot Junior, pas sûr, ouais, mets de la musique de jeune, c'est pour les juniors.
Si avec... vous voyez le Dascri, tu es en train de danser sur ce thème,
ouais,
j'arrive pas à prendre les photos
avec ouais. En couverture,
Cristiano Ronaldo,
la Christiane et il explique pourquoi c'est la Christiane qui est en photo dans le premier numéro de SoFoot Junior. Simplement parce qu'il a son premier fils l'a appelé Junior. Elle est très bonne, hein.
Oh.
Ah ouais, bon bah ok. Alors, vous savez que je vous ai présenté SoFoot. À une époque, c'était pratiquement chaque mois et tout, quoi. Enfin bon, de temps en temps, on y revient. Mais bon, vous savez très bien que nous estimons ici, enfin du moins, Ultimatum et moi, vraiment très très bien le SoFoot. Normal, alors que vaut le SoFoot Junior qui est censé donc s'adresser à des plus jeunes, sous-entendu des ados, quoi.
Des ados ou des enfants, parce que bon.
Ados.
Ouais, parce que je relève au moins 80 mentions à SoFoot dans cette émission.
Ados. Alors.
80,
ouais. Ouais, mais il n'y a pas l'équivalent en France. Je peux pas citer d'autres marques, il n'y en a pas.
Ah merde.
Non. Alors,
Panini.
Pour le côté. Eh ben justement, on va y venir, quoi. Panini n'édite pas de quotidien ou d'hebdomadaire ou de mensuel.
Si, si.
Non, mais pas.
Oui, non, mais ça s'appelle des comics de super-héros.
Ouais, d'accord, ok. Bah. Alors, on y a le petit côté ludique et tout avec les cartons à découper avec les footballeurs. Genre, bon, bah, c'est pas de la Panini.
Un peu les Panini, ouais.
Ils peuvent pas, hein. De toute façon, non. Ils ont pas le droit, hein. Alors, il y en a 8, hein. 4. Devant, 4 derrière.
Il y a la fiche descriptive de ce qu'il a fait.
Ah oui, il y a la fiche.
C'est vraiment complet.
Oui. Alors, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on va garder l'esprit SoFoot. C'est-à-dire avec des trucs un petit peu à. Genre Didier Drogba, je prends la fiche de Didier Drogba.
Vas-y.
Alors, né, attaquant, droitier, tagada. Il y a le. Bien sûr, il y a tout son palmarès et tout. Point fort, son sens du but. Ne jamais être revenu à Marseille.
Quand même.
Point faible, son caractère impulsif, sa vitesse, ne jamais être revenu à Marseille
aussi. Bon, d'accord.
Ok, quoi, tu vois. Et puis trois choses. Et après, il y a un petit truc qui est rigolo aussi. Hein, c'est typiquement du SoFoot, quoi. Trois choses que vous ne savez pas sur lui. Il a été privé de football pendant un an après avoir redoublé sa classe de quatrième. Quand on vous dit qu'il faut bosser à l'école.
Ouais.
Bon, voilà.
Ouais, celle-là, elle est pas mal.
Voilà, elle est bien.
Bon, alors ça, c'est l'état d'esprit.
SoFoot, ouais.
Ça, c'est pour les fiches. Après, quel est le contenu? Alors, on remarque déjà que au niveau de la mise en page, c'est nettement plus colorié que le SoFoot original.
Tu te fais flinguer. On me cite France Football, les Cahiers du Foot, l'Équipe Magazine. Les Cahiers du Foot n'existent plus.
Non mais attends.
Non mais on parle jeunesse.
Je parle de
oui, mais c'est
de niveau de niveau intellectuel.
Oui oui.
Voilà.
Oui mais c'est ça.
C'est pas France Foot ça. Non, mais
bah non
tombé,
mais c'est
quoi.
Entre 0 et 50 points de QI.
Ouais non mais attends quoi.
Les gens qui pour 50.
Alors par contre bon il y a il se présente un petit peu quoi, c'est un petit peu la même formule que le SoFoot traditionnel avec des petites rubriques au début quoi, des trucs un petit peu plus ludiques quoi, qui sont un petit peu rigolos et tout quoi, tu veux genre c'est qui le plus fort quoi, Pogba contre Verratti. Là ça s'adresse vraiment quoi aux footeux quoi qui connaissent un petit peu quoi. Il y a également des trucs très très bien foutus. L'action du mois, alors carrément te décrypte une action qui amène à un but avec la position des joueurs et puis à chaque fois le descriptif quoi au fur et à mesure de l'action quoi. Donc c'est pas mal, c'est
tu vois les erreurs de défenseur, tu vois comment l'attaquant a pu pas.
Ouais justement, tu as plus de temps quoi de visualiser et d'intellectualiser le truc par rapport à un ralenti quoi sur un écran quoi, aussi ralenti soit-il d'ailleurs quoi.
Ouais.
Après quels sont les gros articles? Bien sûr Cristiano Ronaldo, vu qu'il est en couverture et que c'est un interview en plus, une interview qui est pas dégueulasse, on va dire. Bon, bah, ok, il fait pas trop dans la langue de bois, il a l'air sympa, cool, tranquille. Il y a également un grand article sur Manuel Neuer, le nouveau goal, qui est un des meilleurs du monde, à savoir le goal du Bayern. Il y a bien sûr le poster au milieu.
Ah oui, c'est... Ah, ouais, en plus, vraiment le poster.
Là, ouais, le grand poster, hein, là, c'est
qui?
À Paul Pogba. Et
d'un
j'ai,
côté.
J'ai pas ouvert l'autre, quoi, donc je peux pas vous dire, quoi, parce que bon, bah, je vais. Attends, c'est le.
Recto verso, hein, c'est, vrai, ouais, non, c'est vraiment attends, l'affiche, c'est, vraiment, tac, tac, c'est vraiment le poster. Hein.
Oui, oui, c'est vraiment le poster.
Tu choisis
hein.
soit l'un, soit l'autre. Voilà, ou alors, toi, t'en as
ça doit faire du 80 par 40, un truc comme ça, quoi. Et il y a également des trucs qu'on n'a pas lancé au foot normal, mais qui peuvent s'avérer vachement rigolotes, en fait, quoi. C'est là, il y a un truc qui s'appelle quel club est fait pour toi, quoi. Alors bon, bah selon les critères et tout, quoi, tu peux choisir un club plus ou moins cool. Tu vois, genre la tendance maintenant, quoi, tout le monde veut devenir supporter d'un club. C'est tendance, quoi. Tu vois, genre allez, vas-y, PSG, allez, vas-y, Zlatan et toute la bande, quoi. Tu vois, quoi. Bon, alors tous les goyots que tu vois, quoi, avec des trucs de l'OM alors qu'ils habitent à 1000 bornes de l'OM et tout, quoi, ils ont jamais foutu les pieds, peut-être. Tu vois. Bon, ok. Et il y a aussi donc deux interviews de deux entraîneurs qui marchent plus ou moins bien en ce moment. Roberto Mancini, ouais, bon, pas tellement, quoi, parce que lui, ben, il a dû s'exiler du côté de la Turquie. Mais par contre, l'autre interview, c'est celui de Diego Simeone, Atlético de Madrid. Et là, ça marche un tout petit peu mieux, quoi.
Bon, on voit que c'est vraiment SoFoot, mais adapté au format.
C'est, voilà, c'est un petit peu plus léger. C'est la présentation est un petit peu plus. Il y a même un truc de mots croisés et tout, quoi. Enfin,
ah ouais.
Mots croisés, ouais, hein, faut le dire vite, quoi.
Okay. Tu connais, toi, beaucoup de fans de footballeurs, à part, bien évidemment, notre cher apostrophe national, des fans de footballeurs qui connaissent des mots de plus de 6 lettres.
Oh, bah, ouais, pas mal, quoi.
Ah, si.
Parce que si,
NS ou si Bismuth.
Ou Umberto Eco, mais
Michel Simès, le docteur. Lui, il est fan du PSG, c'est encore pire.
Ouais, mais
pour certains.
Ouais, mais les seuls mots qu'il connaissent, c'est des mots quasi latins.
Ouais, mais c'est déjà petites lettres.
On a également.
Merde, c'est latin. C'est latin.
Bon, je vais relever le niveau du débat. On a également.
C'est toi qui es allé sur cette pente savonneuse.
On a également la photo de classe de Zlatan.
Ah ouais, en
avec
plus,
Zlatan que vous ne reconnaîtrez jamais, parce qu'à l'époque il était blond.
Il était.
C'est énorme. Et ouais, moi je trouve que c'est pas mal, c'est sympa. Alors ça coûte un tout petit peu moins cher, on va dire, que le SoFoot normal. Il y a un petit peu moins de pages.
Mais je pense que
c'est vraiment fait pour que les gamins, enfin les ados, les
joueurs
dans le foot. Se disent ok, bon bah c'est bon. L'occasion de se replonger un petit peu dans la lecture, dans les trucs et tout, sans que ce soit trop redondant, quoi.
Quel niveau poussin cadet ou plus
ça là?
Ouais.
Ah oh, non, bah c'est junior, quoi. C'est son foot junior. Allez, donc
eh ben, on en offrira un exemplaire à Indiana Jones.
Alors c'est pareil, ça va être mensuel, si ça marche, hein, ça va être mensuel, donc, et ça paraît pratiquement tous les 15-16 du mois, quoi. C'est-à-dire, bon, bah, pour pas faire de concurrence avec le SoFoot normal qui paraît tous les débuts de chaque mois, sauf l'été, parce qu'eux aussi ont droit à des vacances.
Mon Dieu. Ah bah, ça y est, c'est fini.
Bah ouais, quand même.
Ouais, c'est pas trop tôt. Aujourd'hui, deux choses à dire sur ce qui se passe dans l'agenda. Primo, une dédicace, bien évidemment. Hop, j'étais pas sur la bonne feuille. La librairie Terre de Légende à partir de 15h, Paul Cohué, qui est dessinateur des Vieux Fourneaux. C'est une série qui est scénarisée par Lupano et c'est sorti chez Dargo. Et donc, c'est tout à l'heure à Terre de Légende. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre et du droit d'auteur. On en parlera tout à l'heure. Et Libraire Indépendant offre une rose aux lecteurs. Les librairies participantes, s'il te plaît.
Les librairies participantes. La librairie.
On en parlera après.
Florifrère, Priva, Ombre Blanche et L'Autre Rive sur Toulouse. Et à Colomiers, la librairie Préface.
Merci. On se fait une petite coupure musicale avec un démon. Kabbalah, Devil, extrait de l'album Boxes, Bagels and Elephants.
Ils sont où les bagels? Pardon.
Tu penses qu'à bouffer toi? Ah oui, mais il est midi. Midi 30 sur FMR, exactement.
Teufel geht da rum. Dein Leben ist verrieben. Der Kreis durch dein Herz. Sei gerät, mein Liebe. Was soll ich sagen? Was doch selbst sich verkauft. Und deut mir das Hoffen. Der Zeiger der Welt.
With the devil and the dude won. Couldn't get enough, now crown for more. Look at you, kid, see the damage done. Take a ride on the headbound train, right on. Your mind, your mouth, your eyes, your ears, your hands, your blood, your sweat and tears. Not enough to work in the demon soul. Guess why? I don't care, give a rock and roll. I don't care, give a rock and roll. Couldn't care less, cause it ain't my role. Ain't nobody else but the safety pain. That she's you out, you lose the game. I don't know where you belong, but I know my shit is strong. Not enough to work in the demon soul. Guess what?
Der Teufel geht da rum.
The devil goes around.
Dein Leben ist verrieben.
Your time's running out.
Reißt euch dein Herz.
He tears out your heart.
Sei gerät, mein Liebe.
There is no way out.
Was soll ich sagen? Was doch selbst sich verkauft. Und deut mir das Hoffen. Der Zeiger der Lord.
Voilà, Devil, Boxers, Bagels and Elephants, c'est le nom de l'album. Et il est sorti... Je n'ai aucune indication. Attends, pardon, pardon, tu lisais, Duce ?
Ouais, c'est assez récent, ça doit dater de 2012, 2011.
Ouais, attends, j'essaie de retrouver... 2011, voilà. Ouais. Ils étaient passés aux bijoux à l'époque, voilà. Zou.
C'est des Belges, me semble-t-il.
Eh ben, tant mieux, voilà. Je reviens de Belgique, alors ça tombe très bien.
Ouais, d'accord.
Belgique, où vous savez, hein, ils captent la bib, donc, c'est super le soir. Mais sinon, on va entamer donc la partie BD. On a parlé tout à l'heure, justement... de cette opération qui est un peu mime un petit peu finalement le discardé.
Oui.
Donc les librairies indépendantes vont offrir une rose.
Enfin une rose en fait le principe c'était comme ça. Lorsqu'ils ont démarré, lorsque tu achetais un livre, tu avais ils t'offraient une rose, une vraie rose pour avoir acheté le livre. Et là bon, c'est la 14e édition, ils ont adapté la rose. En fait, lorsque l'on achète une livre chez les libraires indépendants, il nous offre une rose, mais en fait c'est un livre agrémenté d'une rose, un livre intitulé Un livre peut en cacher un autre, et en fait c'est un abécédaire, une lettre, un mot, une expression. Il y en a quelques-uns, j'ai bien apprécié le E muet. C'est juste ça, c'est tout ce qui a marqué sur la lettre E, mais c'est une lettre, un mot, une expression, quelque chose comme ça qui est développé.
Avec une belle enluminure typographique, voilà. en face à face, c'est vraiment sympa comme bouquin.
C'est vrai que c'est sympa et c'est offert, il faut le demander aux librairies participantes.
Bon, il n'y a pas que à Toulouse, c'est partout en France et en Belgique.
Et uniquement aujourd'hui, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent en différé, on est désolé, on va redonner, pour ceux qui nous écoutent en FM par contre, ou en stream, les librairies
Les librairies participantes sur Toulouse, c'est les librairies Florifrère, Priva, Ombre Blanche et L'Autre Rive. Et à Colomiers, c'est la librairie Préface.
Voilà. Et on vient d'ailleurs de balancer le lien sur Twitter. Zou, à côté de cela, je ne sais pas si vous vous souvenez de Natalia Ponklowskaya.
Oh oui.
Elle était belle, hein.
C'est vrai que sur le coup, j'ai vu.
C'est la procureure de Crimée pro-Poutine, bien évidemment, qui a été mise en place par le pouvoir lors d'un. Conférence de presse. Elle est relativement jeune, elle est au début de sa trentaine. Une blonde magnifique avec évidemment le costume de l'armée, et tout, hein, de procureur, etc. Donc. Très, je vais dire, surtypé, cosplay, donc très manga.
Voilà.
Donc les Japonais ont hurlé de rire quand ils l'ont vu, ils ont fait plein de fan art et tout ça.
J'en ai vu passer des tonnes,
pendant la conférence de presse, il y a une question qui a été posée. Au bout d'un mois, elle a un putain de regard d'ailleurs quand on lui parle. Et qu'est-ce que vous pensez de Poutine, etc. Et on sentait le regard, tu vois, qui avait une certaine flamme amoureuse.
Voilà.
t'étais là, t'es opposant pro-ukrainien. Tout d'un coup, tu dis, oh putain, j'ai intérêt à changer la vie de fait parce que là, je pense que l'attaque va être sévère. Ça faisait beaucoup rire. Et ben, figurez-vous que les Japonais ont remis ça dans, je vais dire, la ressemblance. Je vais dire, puisqu'ils ont retrouvé une ressemblance physique à un Manuel Valls, à notre cher président, actuellement en exercice. Ils lui ont trouvé une ressemblance physique avec le personnage de Muska. C'est l'héritier du royaume de Laputa dans Le Château dans le Ciel. C'est l'un des films de Miyazaki et du studio Ghibli. C'est le seul film d'ailleurs, c'est le seul personnage vraiment méchant qu'on peut trouver d'ailleurs dans la galaxie des films de Miyazaki, de Ghibli, pardon, en général. Donc Muska, qui est avec les lunettes de soleil, le col, le jabot,
ça y est, je m'en souviens,
et le pistolet, voilà, un petit peu pistolet steampunk avec le petit côté visé et trompeté, hein,
comme d'habitude, pas
comme d'habitude. Donc là par contre ça n'a pas vraiment beaucoup pris étonnamment, c'était comment dire, bah c'est rigolo quoi, mais ça fait un petit peu peur quoi, hein. Donc pour nos amis qui écoutent cette radio qui est supposée d'être d'une sensibilité d'une certaine gauche extrême ou qui se disent socialistes, plus socialistes que le socialiste de Jean Jaurès, bah voilà, vous avez votre idole maintenant, voilà, il faut l'aimer notre premier ministre, voilà, zou. On va pas remettre ça en place, voilà, zou. Tu avais un petit coup de cœur, toi.
Ouais, voilà, je flâne de temps en temps sur DeviantArt et je suis un artiste qui s'appelle Cluedog, de son vrai nom Zoé Croquette. Et en fait, je l'avais découvert grâce à une image qu'il avait fait du docteur, un docteur féminin un peu japonisante. Et là,
je m'en souviens, elle était assez sympa.
Et en fait, là, je la suis et je me suis rendu compte qu'elle s'est lancée dans une série qui s'appelle, qui en fait reprend l'histoire de The Walking Dead. Attention, la série TV, pas le comics, mais avec le style de Carl Barks. Le créateur de Donaldville,
c'est surtout le créateur de Picsou.
Picsou, voilà. Plus,
c'est
Disney,
lui qui a donné,
pas,
c'est lui qui a vraiment donné le style actuel de Donald et tout ça. Enfin, donc,
c'est lui qui a créé Donaldville, la ville ou même son voisin méchant, la grogne. C'est lui, il a vraiment créé tout cet univers autour de Donald. Et en fait, là, il mélange donc le style graphique de Karl Barks, vraiment j'ai presque l'impression d'avoir du Karl Barks en face, mais c'est sur l'histoire de The Walking Dead. Là pour l'instant il en est à quatre planches, il fait une image par jour à peu près, il met à jour régulièrement le dessin au fur et à mesure, et je revis The Walking Dead, les premières, la première saison de The Walking Dead, comme ça, mais avec le style, avec un style proche de ce que on trouve chez, de ce qu'on trouve, de ce qu'on trouvait chez, chez Carl Barks de Disney. C'est en assez tout cas, agréable. Ouais, un petit coup de cœur, moi, si on peut le, si, à suivre, vraiment, à suivre.
Donc noir et blanc comme style, hein, oui. C'est vraiment c'est une planche allongée, donc c'est sur le net, donc et puis DeviantArt, ça y est, ils sont passés un petit peu en responsive, donc c'est à peu près consultable sur téléphone portable, à peu près. Donc pour, si vous nous écoutez et tout, vous pouvez essayer de le pécho, ça vaut le coup, mais surtout du coup de soutenir l'auteur. Soutenir, bah, c'est des fois, c'est tout simplement en faire en parler. Vous pouvez pas savoir comme ça peut faire du bien justement.
Et franchement, c'est vrai que lui, c'est la Chloé, Zoé, a vraiment un style graphique qui lui est propre. Pour ce coup-là, elle casse son style graphique et reprend celle de Carl.
Tu m'as dit que c'était un auteur et maintenant tu dis elle.
C'est vrai, la personne a changé de sexe. Elle est passée de Zach à Zoé.
D'accord. Joli.
Ouais.
On en a parlé un petit peu, beaucoup, je vais dire, sur les réseaux sociaux. C'est un compte qui s'appelle Le Petit 21e, qui s'amusait à prendre un fait d'actualité immédiate et de l'illustrer avec une case d'Hergé. Donc ce compte Twitter a été à moitié suspendu, c'est-à-dire tout simplement les illustrations ont été retirées à la demande des ayants droit, donc à la demande de Moulin Saressa, bien évidemment. Et ce que l'on découvre, c'est qu'en fait, ils étaient deux à l'animé, dont un journaliste de Libération, ce qui a valu dans les pages culture de Libé un article « Tintin, prisonnier de Moulinsart ». Évidemment, ça a tout le monde a un peu hurlé et tout ça, etc. Mais il faut peut-être un petit peu remettre certaines choses dans leur contexte. Oui, Tintin fait partie de notre imaginaire collectif, mais Tintin reste pour l'instant une œuvre qui est protégée par le droit. Qu'il y a effectivement le droit de citation en France, mais c'est un droit de citation sur les phrases, et encore, il y a une limite. Alors, en fonction du volume qu'on produit, on ne peut pas dépasser, je crois, plus de 10 lignes, un truc comme ça. Ils ont pris comme référence, et c'est véridique, la plus longue phrase qu'on pouvait citer sans dénaturer l'élément la Madeleine de Proust, voilà. C'est vrai. Enfin, c'est une rumeur, j'y crois pas. Mais il n'y a pas de droit de citation graphique.
Donc ça signifie que si je peux dire cornichon de soif de tonnerre de Brest, une des insultes du capitaine Haddock, j'ai le droit.
Eh ben non, parce que ça a été déposé en marque.
Eh mince.
Voilà, donc attention.
Non mais allô quoi. Également déposé.
Et oui,
je l'attendais celle-là. Donc c'est une longue histoire, bien évidemment. Tout le monde découvre tout d'un coup que Tintin est hyper cadenassé depuis un certain temps. C'est quelque chose que j'ai, que depuis les 20 ans quand même que je suis à l'antenne sur FMR, je parle de temps à autre. J'ai été j'ai parlé un petit peu de la relance de la franchise Black et Mortimer quand ça a eu lieu en 95. Et à l'époque, quand même, les ayants droit freinaient des cas de fer, disaient non, Black et Mortimer, oui, il y a le droit de faire une suite, mais quand même, vous allez le massacrer et tout. Et or, l'affaire Francis Black a été un immense succès, critique et commercial, et ça avait bien marché. Alors que Georges Rémy, quand il est mort en 83, il a dit quelques semaines sur son, avant de mourir, il a fait promettre à sa femme Fanny, lui a dit, écoute, je ne veux pas que mon œuvre continue après ma disparition. Il y a quand même eu un Tintin qui est sorti, qui était inachevé, qui était en cours de production. Voilà, Tintin et l'Alpha. C'était vraiment parce que Bob Demore a insisté pour essayer de continuer. C'était très difficile, parce qu'il y a eu différentes personnes qui intervenaient, il y a eu les tintinologues qui arrivaient derrière, etc. Donc il a très très mal vécu. Donc le deuxième tome est resté à l'état d'esquisse et c'était pas allé plus loin. D'un autre côté, comme ça faisait depuis 82, si je me souviens bien, que Spielberg essayait de négocier pour avoir le droit de faire déjà une trilogie Tintin, sachant que c'était Polanski qui était censé faire le deuxième film et Spielberg le premier. Et il y avait eu un test qui avait été fait que quand même les contrats de Spielberg disaient bien, attention, si on fait une trilogie Tintin, on veut des droits verrouillés et on fait ce que l'on veut derrière. Donc évidemment, c'était très chaud. Il y avait aussi un bouquin. Donc il y a eu un resserrement, je veux dire, des droits au fur et à mesure, jusqu'à arriver donc la possibilité de produire derrière les films. Et ce resserrement s'est payé notamment par la disparition d'une bibliothèque critique extrêmement intéressante qui s'appelait la Bibliothèque de Moulinsart. Et donc je découvre que, au fur et à mesure, est réédite malgré tous les problèmes qu'il y a eu, puisque l'un des bouquins qui a posé le plus de soucis là-dessus, c'est Le petit haddock illustré d'un certain Albert Algout, qui est un immense spécialiste de Tintin. Et comme il n'avait pas eu le droit d'utiliser les images, il est parti chez Albin Michel et il a édité son bouquin en mettant des pointillés et en disant, ben voilà, ici c'est telle case, telle page, allez dans une bibliothèque, découpez l'original et collez-le à la place pour illustrer
ça
ton bouquin.
Ça fait un peu penser là au Padini, justement, de tout à l'heure.
Ouais, mais c'était problématique. Oui, non, c'était, hein, Albert Algout l'avait très mal supporté. Benoît Peters, qui était en charge de la bibliothèque de Moulinsart, a ainsi pété un plomb. Enfin, il en a eu marre. Il a jeté l'éponge. Avec d'autres tintinologues, ils ont fait une conférence de presse à Angoulême en 97. J'étais présent, j'avais leur communiqué de presse. Et dans une interview, enfin, dans une tribune que Benoît Peters a publiée dans Les Arts Occuptibles, sous le titre Objectif Thune, voilà exactement ce qu'il dit à propos du Rodwell System. Nick Rodwell, c'est l'actuel ayant droit d'Hergé, enfin, c'est lui qui le gère. C'est le deuxième mari de la deuxième femme d'Hergé, donc c'est lui qui les gère. On est entré dans une situation de monopole où Tintin n'est plus considéré comme une œuvre, mais comme un produit ou une marque. La notion de prolongement de l'œuvre, de discours critique et l'image même de Tintin sont totalement confisquées. On trahit Hergé à titre humain. Même quand celui-ci refusait de son vivant une autorisation, il y avait toujours une forme de reconnaissance pour l'enthousiasme, car il sentait que 9 fois sur 10, ça partait d'un réel amour de Tintin. Jamais il n'aurait utilisé une telle brutalité qui entache l'image du personnage. Et il dit plus loin... Ces nouveaux objets, puisqu'il y a eu une réduction du nombre de produits dérivés, il y a eu un procès, plusieurs procès vis-à-vis de Canal+, qui via sa filiale Ellipse avait géré les ayants droit au moment du dessin animé.
Ouais.
Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps, on n'a pas pu voir le dessin animé donc à la télévision.
C'est réglé. Maintenant qu'on le voit sur Systerme, c'est que c'est réglé.
C'est réglé, ça a été repris et tout D'accord. le reste, c'est passé sous un autre pavillon. Ces nouveaux objets qui ont plus ou moins... Hermès, pour référence, sont hors contexte, hors public. Vendre plus de 1000 francs français, environ 150 euros, un foulard Tintin, cela s'apparente à une clientèle imaginaire. Rodwell réussit le miracle d'effectuer des pertes importantes en faisant du merchandising Tintin. C'est dire la violence du propos.
Wow.
On voit encore des boutiques Tintin, j'ai visité celle à Bruxelles, etc. Oui, mais ça reste quand même hors de prix pour ce que c'est. Des fois, on cherche encore quelle est la relation plus ou moins directe avec l'univers Tintin. D'Hergé. D'Hergé, au sens large. Voilà, donc ça a toujours été un gros problème. Toute cette histoire sur les ayants droit et tout ça, c'est un journaliste de la RTBF qui l'avait très bien, fort bien raconté, Hugues Daillez, Tintin et les héritiers. C'est édité aux éditions du Félin. Il l'avait raconté en 2000. Maintenant, Tintin a 85 ans. C'est vraiment une vieille dame. Pardon, un vieux monsieur. Mais le problème, c'est que les réseaux Internet et les réseaux sociaux sont arrivés entre-temps. Or, qu'est-ce qui marche énormément ? C'est...
Les images.
Le buzz.
Moi aussi.
Le buzz, c'est la libre réutilisation et réinterprétation de tout ça. Malheureusement, Nick Rodwell est un anglo-saxon qui a... réussi à confédérer, à rapprocher en fait les avantages pour lui, à la fois du copyright, c'est-à-dire d'une limite rétrocessable et extensible. C'est pour ça qu'on parle de faire un nouveau Tintin en 2035, pour redonner 70 ans de verrouillage de plus dans l'affaire. Et en même temps, aux États-Unis, il y a le droit de citation et tout ça, et ben il l'a fait interdire en France. Et c'est pour ça justement qu'il a réussi à verrouiller sur Twitter et tout ça. Oui, mais le résultat des courses, eh ben, Tintin, on va de moins en moins en parler. Au fur et à mesure, ça va devenir ce vieux petit truc. Avec plus ou moins des films qui avaient plus ou moins marché à une époque et qui ressemblent plus ou moins à Indiana Jones par le même réalisateur et la même créativité. C'est un petit peu dommage. Et résultat, eh ben, Gaston Lagaffe, on en parle beaucoup plus actuellement. Parce que Marsu Productions, enfin Dupuis, ne va pas essayer de bloquer les ayants droit, etc. Enfin, ne va pas essayer de bloquer en tant qu'ayant droit l'usage des images, etc. Donc voilà, ben Tintin, pour illustrer un canardage en Corse où un mec des cités à Marseille qui se fait flinguer en voiture, ben on mettait une case de Tintin, ben à la place, on va peut-être mettre une illustration, je sais pas, de Tiff et Tondu, de Gaston Lagaffe, pour illustrer ça. Même Dick Tracy, il est actuellement plus facile de parodier ou de reprendre une image d'un Mickey que d'un Tintin. Donc c'est pour c'est ça con. Ça devait arriver. Et ben dans ce cas-là, il n'y a qu'une position qui se peut, c'est oublier Tintin. Point barre. La référence donc de ce bouquin en question, dans lequel j'ai repris justement cette chronique de Benoît Peters, il y a d'autres choses dedans extrêmement intéressantes. Notamment sur le musée Hergé, on en avait parlé, d'ailleurs justement une de mes répliques avait été prise dans le bouquin. Hugues Daillé, Tintin et les héritiers, c'est aux éditions du Félin. Luc Pire, je pense qu'il est encore trouvable. Hugues Daillé est un journaliste de la RTBF qui suit de très 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 près le dossier et qui a beaucoup de mal des fois à faire son boulot justement là-dessus. Je sais pas si après. Non, d'autres choses à dire ? Non, t'entends ?
Non.
Peut-être que c'est un exemple qu'on pourrait montrer en école de commerce, quoi. Différentes stratégies commerciales. Ouais. L'une qui, va marcher commercialement parlant, et l'autre qui ne fonctionne pas, quoi.
Tout à fait. Hein ?
Ben, le meilleur exemple que l'on puisse voir, c'est le coup de communication là sur Godzilla, où ils ont dit ben allez-y, faites des affiches, faites-les, et on prendra la meilleure et on s'en servira pour notre com. Et ça, c'est très fort, c'est-à-dire il y a à la fois une approche de oui, c'est un imaginaire public, etc. Oui, mais d'un autre côté, oui, c'est une marque, on veut essayer d'en garder le contrôle, mais d'un autre côté, essayer d'en faire quelque chose. Ce qui permet justement de faire de la com à prix nul.
Ouais, c'est pas Big Malian qui s'en occupe de cette histoire-là, non.
non, pas ce coup-là. C'est vrai.
On va faire une petite pause musicale. Que c'est un petit peu lourd et il est 12h52, donc on va pas avoir le temps après pour la suite. Ça s'est passé. Ah ouais, tiens, ça.
Je crains le pire.
Aïe. Il a trouvé ça sous la console, c'est pas bon ça.
Ouais.
Benjamin Moonlight. Moonlight Benjamin. Je vais y arriver, extrait de l'album Movement. Bienvenue chez nous. 12h52 sur FMR.
Ces vacanciers de guerre, créateurs de misère, ces porteurs de virus que la médecine innocente, ces étoiles de gangrène déguisées en sauveurs qui contaminent l'espace de leurs rayons de merde, qui se déguisent en touristes, aux mains blanches, aux cœurs tendreux, nous les laisser pour qu'ils viennent nous baiser en douce. Touristes aux mains blanches, touristes en vacances, tu parles de mon pays, tu parles de paradis. Mais paradis pour qui? Le paradis des uns, ça fait l'enfer des autres, et les autres c'est qui? Ceux qui bâtissent leur taudis avec les restes de tes manoirs, qui osent montrer leur misère noire et réparer.
venez de nous trouver là. Tellement chez nous, ça devait être chez vous. Nos domestiques dans vos villas, nos jardiniers dans vos jardins. Touriste dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières. Pas surprenant que l'exotisme les attire. Ces répugnances que ces visites nous apportent. Les Bahamas, Porto Rico et puis mon île. Les bases militaires, ça et là, font la parade. Les mains du touriste yankee, jamais ne donne. Ça descend dans notre pays avec sa haine. En ingénieur, en advisor pour faire le change. Pour faire régner le statu quo qu'ils imaginent. Touriste aux mains blanches. Touriste en vacances. Là dans tes champs de canne à sucre. De la mort et nos bras tu abêcher l'or pour encaisser tes coffres forts. Étonné de nous trouver là, tellement chez nous ça devient chez vous. Nos domestiques dans vos villas, nos jardiniers dans vos jardins. Touriste dans ton paradis, reste bien au frais et sans souci. T'es pas venu voir la misère au prix que coûtent les croisières.
Bienvenue chez nous, extrait de l'album de Moonlight Benjamin Movement et bonjour MC Gilles.
Ah bah on va pas être loin. Hein.
Oh oui, je pense pas. Ma foi, c'est vrai que la dernière fois que t'étais passé,
oui,
t'avais parlé d'un album de BD, même du sport, je me souviens.
Voilà. Ouais. Il y a un an à peu près, j'avais parlé d'une BD qui s'appelle Spinneret, qui est disponible sur Internet, et qui avait fait son Kickstarter pour avoir une version améliorée de la BD. Et j'ai participé au Kickstarter, et donc j'ai le volume 3 de Spinneret, et on voit de suite la différence avec le volume 2.
C'est au niveau de l'épaisseur, et puis même de la couverture glacée et tout, enfin vraiment...
Ouais, okay. La couverture maintenant est sous pellicule brillant, mais je préfère le mat, tu vois, ça c'est personnel, mais bon.
D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Kickstarter avait tellement bien marché que bon, ils ont pu faire
la
présentation.
Non, mais le brillant, tu nettoies plus facilement les taches.
C'est pas faux. C'est pas faux.
C'est pas faux. Et en fait, l'épaisseur a été rajoutée parce que justement, grâce au Kickstarter, il a pu insérer des épisodes spéciaux qui concernent des acteurs secondaires de l'histoire, mais également il a pu introduire une histoire inédite qui est justement la création de Dr. Universe et de Greta Gravity. Dommage que Thomas soit pas là parce que là il aurait regardé le bouquin, il aurait épluché à mort. Et en fait, si tu veux, on continue l'histoire qu'on avait dans les deux premiers, mais ce coup-ci, on rentre un peu plus dans vraiment les différentes batailles. On rentre vraiment dans, on va dire les événements qui se passent dans l'Ohio Columbus.
Columbus.
Voilà, c'est ça. À Columbus. Donc moi je voulais juste signaler que ça y est, le tome 3 est sorti. Les tomes 2 et 1 sont réédités sur le nouveau format avec également des pages colorisées. Ils se sont mis un peu, ils sont mis.
Ah bah donc si tu vas voir la totale, ça te fait deux bouquins quoi.
3.
Ben non, parce que les deux premiers sont également
les deux premiers ont été édités d'abord
améliorés quoi.
Et ils ont profité du Kickstarter pour fournir le même format que le volume 3 au volume 1 et au volume 2.
Cool.
C'est sympa.
C'est sympa, ils ont vraiment pensé aux autres. C'était Spinneret, histoire de Crazy Crow, le graphisme pour Walter Gomez, Fernando Furukawa, oh putain, je vais pas y arriver. Et Rocio Zucchi. En auto-édition, on le trouve sur un des planètes, entre autres.
On mettra le lien. Tu...
Je mettrai le lien, hein, ouais.
Mais on, tu peux me le mettre avant 14h, c'est sympa.
Voilà.
C'est pas vendu sur Toulouse, il y a pas.
J'ai pas trouvé.
C'est impossible. Hein,
j'ai pas trouvé. À moins que les autres s'y mettent.
Il faudrait voir, hein, de toute façon. Ouais. Quoi. Alors pour faire court, de toute façon, pour les gens qui connaissent pas du tout, quoi, bon, c'est des histoires de super-héros, de super-héroïnes et tout, oui, quoi. Sauf que le discours est très moderne, très jeune. Enfin, très jeune, pas trop, quoi, quand même, hein, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont vraiment des.
C'est un support qui fait la chronique au pied levé, comme ça.
Ah, ouais, non, mais complet. Bon, moi j'ai lu le premier, bon, voilà, quoi. Bon, ça m'a pas scotché, mais bon, c'est vraiment très plaisant, quoi.
C'est vraiment très, très plaisant. Très plaisant, c'est moi, déjà, voilà, pour le premier, pour le deuxième, c'était, voilà, déjà, quoi, pas mal. Là, bon, dans le troisième, c'est bon. Ouais, ils prennent leur vitesse de croisière.
On va dire que, bon, bah, pour ce qui est des possibilités d'empathie par rapport aux personnages, dans ce genre de série, tout ça s'adresse plus aux jeunes, quoi, c'est pour ça, quoi. Mm-hmm. Hein, je veux dire, bon, bah, ok, quoi, c'est un parti pris. Le langage également est à l'avenant, quoi, avec quand même des formules vachement bien senties, quoi. Hein, c'est ça qui est très très intéressant. C'est pas du porte-nawak comme certains trucs, quoi, qui sont là juste pour vendre du fight ou des nanas en spandex, quoi. C'est ça le truc, quoi.
Voilà, tout à fait.
Ah, un petit peu quand même. Avec les petits reflets,
ouais,
brillants.
Mais ça fait partie du truc. Superman,
il fait Greta Gravity, tu veux parler?
Oui. Non, je parlais du deuxième bouquin.
Ah, pardon. Non.
Ok, c'est la frange moderne, c'est la frange indépendante, qui s'affranchissent de certaines limites,
tout
on va dire.
Et ils sont encore en notre édition.
Je vais de suite, je vais rouiller la porte du studio parce que sinon on va voir arriver les mecs de Misma, de Camartou. Ouais, je veux pas de merde là.
Bah non, mais bon, écoute, faut dire ce qu'il y a. Enfin,
non.
Bon, ok. On va après avoir découvert Spinrad, je me suis intéressé côté là. Par contre, une deuxième découverte, Little Victory de Philip M. Jackson. Alors, je vais parler un peu de Philip M. Jackson. En fait, c'est un illustrateur de l'éditeur Rareware. Il est britannique. Mmh. Alors, Rareware a créé des jeux comme Banjo et Kazooie, et il se trouve que Philippe.
C'est un studio mythique qui faisait des bandes d'arcade, aussi, qui a ensuite, voilà, qui a effectivement, qui avait fait le Donkey Kong Junior, ouais, sur SNES.
Donkey Kong Country,
Country, voilà, et Nintendo n'a pas racheté, mais que Microsoft a racheté. Oui. Donc voilà, c'est l'un des studios mythiques du jeu vidéo.
Tout à fait. Et en fait, c'est un ancien illustrateur. Il a travaillé donc sur Banjo et Kazooie, Nuts and Bolts, la deuxième opus. Mmh. Il a fourni le design de deux personnages, Lords of Games. C'est une sorte de Pong, de télépong. Les yeux sont en fait les barres
ah,
de Pong.
Ouais, d'accord.
Et t'avais juste une petite roulette et juste la télé. C'est comme ça que c'était le design. Et il a également fait le design de Piddle le chat. Un personnage qui suivait Grunta, la méchante du jeu. Il a fourni aussi les fonds du jeu. Je préfère qu'il y avait des mini-jeux à l'intérieur. C'était Klungo Slaves Were the Slaves. Pardon, il y a trois S à chaque fois. The World ou The Universe. Et en fait, c'était des mini-jeux qui étaient dans Banjo et Kazooie. Okay. Et en fait, il a fait les fonds. T'avais l'impression de rejouer sur une Game Boy Advance à peu près. C'était à peu près ça l'univers. Et là, en fait, quand il est parti de Rareware, il s'est mis à son propre compte. Et il a démarré en fait son propre édition qui s'appelle Collected Curious, et où il a créé 4 mini-comics. Et 4 mini-comics, c'est chez Conchel Art, où là c'est une histoire autour de quatre personnages. Il a fait Battle Bunny. Alors là par contre, c'est médiéval fantastique où les personnages sont des lapins humanoïdes. Spider and Scorpion ou How to Play. Alors là c'est lui qui se met en scène en train de jouer à un jeu.
D'accord.
Et il essaie de te donner des indications de comment t'en sortir du jeu. Autant te dire que sur Tetris, il y a marqué je sais pas m'arrêter. Assez bien fait. Et donc il s'est lancé dans une histoire de super-héros. En plus de tous ces trucs-là, il s'est lancé dans une histoire de super-héros, Little Victory. Alors là, en l'occurrence, il a démarré un arc qui s'appelle Chimeria, qui va comprendre 7 tomes. Il y en a 4 qui sont déjà en vente, en papier. Certains, ça commence à arriver en digital art, c'est-à-dire en téléchargement. Et en fait, là, par contre, il a vraiment créé un univers de super-héros. Qu'est-ce qui se passe? Il a fait un préquel en début 2009, arrivé 2010.
Il a créé en fait l'univers, c'est durant la Seconde Guerre mondiale, un peu partout dans le monde, des enfants sont nés avec des super-pouvoirs. Le problème, c'est que quand les enfants sont nés, ça a rasé des villages. Il y a des villages, en... mais comme on était à la Seconde Guerre mondiale, il se trouve que dans la
ville... Bon, ça s'est pas vu.
si, ça s'est un peu vu parce que en fait, les Allemands s'étaient stationnés pas loin de la ville d'Arras et un des enfants est né et a rasé l'armée qui était présente. Donc du coup, lorsqu'il y a eu le débarquement, il n'y avait plus assez de blindés côté allemand. Enfin, ça a fait des trucs. Du coup, quand après la Seconde Guerre mondiale, les Américains et l'Union soviétique on dit qu'il faut contrôler l'apparition de ces super-héros. Sachant que, un, il faisait assez de dégâts au moment de la naissance, parce que la bataille d'Italie, il n'y avait plus rien. Donc, du coup, il fallait contrôler l'arrivée de ces super-héros. Donc, du coup, sous l'égide de l'ONU, ils décident de lancer un programme spécial dédié aux super-héros. Pour que tout le monde ait à peu près la même équité, les super-héros sont affectés à des secteurs. Gold Sector, Platinum Sector, le premier... Le premier c'est les US, le second c'est l'URSS, eux ont droit à des super-héros de puissance maximum. La Chine et tout cela ont droit.
Tiens, De Gaulle, tiens, allez.
Voilà. En droit à des super-héros de deuxième niveau. Et ensuite, pour l'Afrique, l'Amérique du Sud et autres, là, par contre, c'est tout venant.
C'est les bras cassés, quoi.
Voilà. C'est le tout venant, si je puis dire. Mais il y a une exception. Bon. Jackson est britannique, donc il fallait bien que l'exception vienne de la Grande-Bretagne.
Bien sûr.
Donc, la Grande-Bretagne ainsi que quelques pays du Commonwealth, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, j'en cite quelques-uns, ont décidé de ne pas participer au programme. Résistance. Du coup, eux ont développé une unité spéciale qui est entièrement dédiée à tout ce qui est supernaturel. Et donc, du coup, les super-héros, du fait de la convention, les super-héros n'ont pas le droit ni de voler, ni d'utiliser leur pouvoir en Grande-Bretagne et dans les pays du Commonwealth. Donc, ça pose quelques problèmes.
Ah, les boules, quoi.
Ah ouais, complet. Complet. Mais si tu veux, si un super-héros passe dans le truc, c'est... Ce sont des hommes en noir avec un chapeau melon qui viennent vous voir et qui vous expliquent que vous n'avez pas le droit de voler. Bon, je vais maintenant. Ça, c'est la partie.
Tu vois, c'est pour ça que Elvis Presley n'est jamais allé en Europe, quoi, en fait. Parce que c'était un super héros.
Et oui, donc du coup, il n'avait pas le droit.
Ben non, il ne pouvait pas voler. D'ailleurs, on ne l'a jamais vu voler, hein, en plus.
Alors, maintenant,
Elvis Presley n'était pas parti en Allemagne.
Non.
Si, si, mais bon, il n'a jamais donné de concert. Il n'a
jamais donné de concert. Mais il n'a jamais donné de concert en...
Ah non.
Il n'a jamais donné de concert en dehors des US.
Eh oui.
Oui, mais bon.
Aussi, au Canada.
Voilà.
Tu vas pas me dire qu'il a pas chanté sous la douche pendant qu'il était chez Rammstein.
Si, je pense qu'on l'a quand même. Si. Mais bon, ça rentre pas dans les concerts. On va maintenant passer dans l'arc Chimeria. Alors, ce qui se passe, c'est que les États-Unis, le super-héros qui est en charge de San Francisco, a disparu. On ne sait pas pourquoi, il a disparu. Donc du coup,
j'ai une petite idée, mais bon.
Le centre envoie un remplaçant, en l'occurrence une remplaçante qui s'appelle Victory Girl, et qui va en fait prendre le relais. Mais elle est toute jeune, elle est toute frêle, et le seul truc, c'est qu'elle découvre les États-Unis alors que le centre est basé à Genève. Donc du coup, ça lui changement de monde.
Choc culturel, quoi.
Choc culturel complet. Déjà, pour son arrivée, c'était grand festival, tout le bazar. Les gens s'attendaient à un bon gros super-héros comme le prédécesseur. Il se retrouve avec la petite fille là. On dirait rien.
Mais on dirait bon, une petite nana. Alors, c'est quand même très, très manga. Hein, avec des super grandes jambes.
Elle n'est pas adulte. Hein.
Elle n'est pas adulte, non, mais enfin bon,
elle est
quand même assez bien formée, on va dire.
Tu verras. je ne peux pas tout dévoiler, malheureusement. Et en fait, elle doit mener trois fronts différents. Déjà, se faire apprécier de la population, parce que la présentation s'est plutôt bien passée, mais on a senti que les gens n'étaient pas... c'est une jeunette, quoi. L'autre avait de l'expérience... C'est un peu difficile, il faut que déjà elle fasse du
public. Vous inquiétez pas, ça pousse devant.
Ça, je dirais rien. Ensuite, il faut déjà... Ensuite... ensuite...
J'ai honte.
Et ensuite, il faut que la... elle déjà... En voyant sa présentation, les super méchants se sont donnés à cœur joie pour le bizutage. Donc on a vraiment tout type, tout type, les super caïds armés de méca et autres. On a, si tu veux, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment le truc de présentation.
D'accord. Donc c'est disponible où?
Alors il suffit d'aller sur le site de.
Bah, on l'a envoyé le lien. Donc,
voilà. Solo Endeavor, c'est son édition.
D'accord. Donc c'est auto-édité de toute façon.
C'est auto-édité. Sinon, c'est il y a Indie Planet où il y a la version numérique qui est fournie sur lulu.com.
D'accord.
Mais c'est en anglais.
Ah oui, c'est en anglais. Oui.
C'était bon de le préciser quand même.
Ça te gêne, Luce hein?
Moi non.
Ah bon? Ah, j'ai eu peur. Bon, sinon ce serait surréaliste. Hein.
Ah oui.
Le programme sur le silver screen de la rue du Tour vous est présenté par... Non mais il est interdit de fumer dans cette salle, monsieur.
Ceci n'est pas une cigarette.
Bon.
Détournement d'une citation de Magritte pour commencer, les gars. Ça le fait quand même.
Ça tombe bien.
Donc, la Cinémathèque nous propose, bah, il y a plusieurs événements, en fait, hein. Il y a également, toujours encore, hein, les 50 ans de cinéma. Mmh. Ça dure toute la saison. De toute façon, vous allez en avoir droit jusqu'en
50 ans
juin.
De la Cinémathèque.
Oui, de la Cinémathèque.
Non, t'as dit du cinéma.
Avec quelques thématiques, dont, justement, quoi, ce cinéma des surréalistes qui est déjà à l'affiche ou plutôt sur les écrans de la Cinémathèque depuis une semaine. Alors je vous propose un petit coup d'œil sur ce que vous pouvez regarder la semaine qui vient. Déjà aujourd'hui, cet après-midi, en fin d'après-midi à 17h, c'est un programme de burlesque avec tout d'abord un Charlot de 24 minutes, c'est Charlot chef de rayon, puis le frigo des ménageurs, ça c'est un Buster Keaton, et pour terminer Harold chez les pirates de Hal Roach, ça c'est un Harold Lloyd.
C'est que des muets, si me semble.
Oui, c'est que des muets quoi, mais bon
pardon.
Muets mais avec la zic hein, tout façon quoi.
Là.
Ensuite, on a, et là c'est un petit peu décentralisé, c'est le voleur de Bagdad ce soir à 20h30, mais c'est à l'escale à Tournefeuille, mais c'est l'original, on va dire, il y a eu plusieurs versions, ça c'est l'original en muet, 1924, avec Douglas Fairbanks, Raoul Walsh,
ah ouais,
qui tournait déjà hein, à l'époque. Donc, et si vous le loupez ce soir, vous pouvez le revoir demain après-midi, toujours à l'escale à Tournefeuille, donc le voleur de Bagdad de Raoul Walsh à 16h. Lundi, il n'y a pas de séance consacrée aux surréalistes, mais c'est plutôt consacré à la Cinémathèque, avec un K à la fin, c'est normal. C'est parce qu'il s'agit d'un échange avec des œuvres qui appartiennent à la Cinémathèque de Bruxelles, les Belges encore, une fois.
Oh non, pas se préjuger.
Ouais, pas tout ça c'est dans la crèche de bœuf.
Alors donc avec
deux
séances, donc ça ce sera mardi prochain, l'une à 19h avec trois moyens métrages ou courts métrages, c'est comme vous voulez, quoique 12, 36, 24, ouais c'est du court et du moyen quoi, avec des films d'Henri Sturck de 32, de 34 et un film de Luc de Hesch de 60 qui s'appelle Magritte ou la leçon des choses, deux choses, pardon. Et à 21h, autre séance, donc avec également des œuvres d'artistes belges, Combat de boxe de 1927, Impatience, toujours de Charles de Kelecker en 1928, ça c'est toujours des muets quoi, et des films qui sont un petit peu plus récents tels que le Monsieur Fantomas d'Ernest Meurman, des films qui étaient adulé, qui était défendu par les surréalistes à l'époque. Mercredi, Peter Ibbetson, le film de Henry Hathaway. Alors là, on se demande ce que Henry Hathaway a fait avec Peter, ce film de Peter Ibbetson. Mais c'est comme ça, le film était bien apprécié par les surréalistes. C'est donc mercredi prochain à 19h à la Cinémathèque. Et on passe tout de suite à vendredi, parce que jeudi prochain, c'est le 1er mai. Et nos camarades syndiqués de la Cinémathèque ne travaillent pas un 1er mai, camarades. Vendredi, il y a également, dans le cadre des cinémas, le cinéma des surréalistes, à 21h, Rêve à vendre de Hans Richter en 47, précédé de Betty Boop, BDB, un petit animé de 7 minutes de Betty Boop. Voilà pour ce programme un petit peu édulcoré, mais enfin bon, faut faire un peu court parce qu'on n'a pas trop le temps, hein, il paraît, quoi. C'est vrai, ça?
Non, 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 ça va, on a de quoi être tranquille, et d'ailleurs, il y en a qui me font des remarques assez déplaisantes, mais il y en a, ils nous écoutent en ce moment sur la FM, ils avaient qu'à être présents dans le studio.
Eh ouais.
Ça, voilà.
Attends, je vais le faire baver, là, j'ai un truc, je vais le faire baver.
Non, après ça va être dégueulasse chez lui, c'est pas possible, quoi. Figurez-vous que le site de data journalisme 538 a entrecoupé les résultats au box-office de 1615 films sortis aux États-Unis et au Canada entre 1990 et 2013 avec leur degré de sensibilité féminine, à savoir, ça a été calculé selon les critères du test de Bechdel. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a un personnage féminin dans un film, est-ce qu'elle s'adresse aussi aux personnages principaux? Est-ce qu'elle a un nom? Est-ce qu'elle a une importance dans le scénario? Bref, ça mesure le nombre et l'importance des personnages féminins dans une œuvre. Alors, là où c'est intéressant, c'est que, outre que le budget des films est généralement plus faible quand les femmes y occupent des rôles plus importants, alors les actrices sont souvent moins bien payées que les hommes, malheureusement, les films paritaires seraient jugés beaucoup plus rentables. Pour $1 dépensé en production, un film avec des personnages féminins importants rapporterait en moyenne $1,34 aux États-Unis et $1,17 à l'international. En revanche, un film avec une seule femme à l'affiche arrive tout juste à l'équilibre avec $1 rapporté pour $1 investi.
Ah bon?
Hein? Je croyais qu'avec Tomb Raider... Est-ce qu'on a les chiffres de Gravity?
Je crois pas. Attends, Gravity... Oula, ça va faire à combien ça? Oh, attends, Gravity. Non, il n'y en avait pas qu'une. En plus, que ça soit Tomb Raider ou autre, je suis pas sûr qu'il y en avait qu'une.
Ah, c'est un petit peu surprenant. On mettra donc, à mon avis, cette news, bien évidemment. Je te le copie-colle et je te l'envoie. Et vous pourrez le juger par vous-même. La news date un petit peu parce que on avait quand même d'autres choses à faire ces derniers temps, je vous rappelle. Hein, non, mais on n'a pas été présent pendant 2 semaines à l'antenne parce que. Hein, on recevait des invités super et exceptionnels. Et un film qui est toujours actuellement en diffusion dans les salles obscures de Toulouse, non plutôt de banlieue de Toulouse, ah si, non, de Toulouse, à savoir L'Utopia, 24 rue Montargis. Il s'agit de Wong Crops. Un film d'un certain Henri Duprieux, Quentin Duprieux, je crois, et la bande son est signée par l'immense Monsieur Boiseau. Cut Dick.
C'est le même.
Ah bon? Oh merde! Mais en tout cas, ça n'explique pas comment on peut avoir dans ce film Éric Judor, qui parle en anglais, un Marilyn Manson démaquillé, et c'est les vrais d'ailleurs. C'est une histoire de flics de Los Angeles qui sont plus ou moins homosexuels, travestis, et oula, qui font des bavures. Enfin, et la bande annonce est assez délirante. Woo! Yeah, I love you, son!
One, two, three.
Wrong Cops, donc, c'est extrait de la bande originale Wrong Cops, Cut Dick de Mr. Wazo, et c'est donc en ce moment à l'Utopia. Ma foi, In the Telosh, mais qu'est-ce que l'on a donc ?
Ah, et sans générique.
Si tu voulais, mais quand même, il est 13h21.
Okay. Yes, okay.
Rapidement, dans les news, dans les revues de presse, Télérama a sorti un excellent article qui s'appelle « Leur mission, traduire les séries en 24 heures chrono ». Où en fait, donc le milieu de professionnel, la traduction française est actuellement en crise, non pas à cause des fansubbers, mais tout simplement à cause des films, des séries, pardon, excusez-moi, qui sont diffusées à plus 24 par rapport à leur pays d'origine, États-Unis, Japon, Angleterre, et ça pose un problème tout simplement parce que les ayants droit ne veulent pas fournir immédiatement au moment de la production de la série, donc en fait ils se retrouvent vraiment à 24 heures et oui. En concurrence avec une immense entreprise qui traduit toutes les séries hollywoodiennes pour Hollywood. Ils font ça pour plus de 50 langues, mais c'est fait à la serpe. Et le problème, la qualité s'en ressent. On apprend beaucoup justement sur comment ça se passe. On apprend que OCS, par exemple, justement, ils prennent ses sous-titres au rabais. Mais que Canal+, ils font l'effort de revérifier. La traduction, par exemple, de Mad Men, il y a un immense effort sur le langage. C'est que des mots qui existaient dans les années 60. Voire sur les expressions elles-mêmes. Donc voilà, article extrêmement intéressant. Non,
non. Oui.
Si tu veux, moi je le vois sur OCS parce que je suis abonné. C'est vrai que les traductions, certaines traductions sont un peu catastrophiques. Mais après, c'est vrai que encore HBO, il balance le truc quand même deux jours avant. Pour que les autres aient un peu de temps, mais bon, je reconnais que l'article montre bien ce qui se passe pour justement toutes ces histoires de US plus 24 sur OCS ou de H plus 24 d'ailleurs.
Ce qui me fait énormément rire, c'est que dans cet article de Télérama, les Télérama ont dit ouais, grâce à nous, d'ailleurs, les traducteurs savent quand sont diffusées les séries et tout. Ouais, c'est ça. Il y a quand même d'autres outils. Il y a les outils de pige qui sont accessibles justement aux auteurs de textes, etc., pour savoir quand sont passés leurs sous-titres. Donc, il faudrait quand même Télérama.
Ah, mais c'est pas comme si on n'avait pas attendu Télérama, quoi, pour savoir que de temps en temps, les sous-titres étaient un petit peu pourris. Développer des non-sens, des contresens et des trucs comme ça, quoi. Non, on ne le savait pas depuis le temps.
Je te fais même grâce des fautes d'orthographe.
Non, mais ça, c'est pas grave. Hein. Ça, c'est quand tu tapes sur un ordinateur très rapidement, c'est normal. Hein.
Bon,
dimanche, pas de frappe là. C'est quoi frappe,
dimanche prochain.
Quand tu te retrouves avec apostrophe à la place de E accent aigu ou des trucs comme ça, quoi. Hein, tu vois ce que je veux dire?
Alors, ça, c'est okay. Un problème Unicode. Je t'expliquerai en rentrant.
Oui, non, mais bon.
Okay. Les Simpsons vont toujours très loin dans l'animation.
Oh oui. Et il se trouve que là, il me semble que c'est quel âge déjà qu'ils ont ces trucs de plastique?
24 ans pour les Simpsons.
Non, ça, je parle des autres. Je parle des autres. Du plastique rouge. Ouais, je crois, voilà. Bah, pour les 50 ans, ils ont fait un film, ils ont fait. Des trucs comme ça, et là pour les 50 ans des Lego, et dimanche 4 mai sur Fox
un épisode des Simpsons entièrement fait avec des Legos.
Oh putain, oh putain.
Entièrement fait. Le Fox a diffusé sur son compte Animation Domination les premières images de cet épisode.
Et sur YouTube, la bande-annonce
sur YouTube. Ouais. Voilà, et ils ont vraiment tout fait, animation, voix, tout a été fait. On dirait presque du robot chicken.
Ouais, il y a à la fois, d'ailleurs, de ce que j'ai vu, il y a à la fois le truc en 3D, puisqu'il y a un soft spécifique qui a été fait par Lego pour cela, mais il y a aussi apparemment des scènes qui ont été faites avec des vrais, avec des vrais trucs. À mon avis, ça m'étonnerait pas qu'on ait un produit dérivé qui arrive.
Ah, ça, ce serait pas impossible, non.
Voilà. Et
Vu la qualité du film Lego Aventure, je veux dire.
On parlait tout à l'heure des chaînes mini-généralistes en France.
Ah oui, malheureusement. TF1 et M6 ont le regret de vous annoncer l'arrêt de diffusion de leur chiotte commune. Non, c'était quoi que... TF6.
L'horreur. Là, t'es infâme.
Non, c'était les guignols qui l'ont dit. Donc,
Oui, mais les guignols, ils étaient dans le groupe concurrent. Donc,
voilà.
À l'époque où il y avait autre chose que CanalSat, il y avait TPS, et donc la chaîne avait été fondée à ce moment-là. Arrêt de diffusion en fin d'année, tout simplement à cause de la fin de l'accord des deux principaux diffuseurs, CanalSat
et Numéricable.
Au lieu de le mettre en clair sur la DSL, ce qui se fait maintenant,
En fait, d'après ce que j'ai compris, c'est que.
C'est aussi parce que ça leur coûte cher en TNT. Hein.
Primo, il y a ça, et deuxièmement, il y a un truc qui est juste à côté, qui est une filiale, qui est une chaîne sœur qui s'appelle Série Club.
Série Club, qui fonctionne la même chose.
Mieux. Oui, la société, c'est la même société, c'est-à-dire que ta Série Club et ta TF6, mais bien entendu, Série Club fonctionne mieux que TF6.
Bah, TF6, c'était.
Bah, au moins, il n'y a pas Coé dedans.
TF6, c'était un petit peu plus calibré, quoi, sur des séries policières, enfin, sur une espèce d'ambiance comme ça, alors que Série Club, c'est vraiment plus une chaîne généraliste au niveau de la diffusion des séries. Il y a de tout et n'importe quoi. Vous regardez Série Club le matin. Si vous êtes ménagère de moins de 50 ans, c'est cool, quoi. Mais bon, si vous cherchez un truc un peu pointu, vous pleurez. Par contre, on a des fois en fin de soirée, des rediffs, c'est pas forcément des originaux, bien qu'ils aient des fois des séries originales et des rediffs qui sont quand même de bonne qualité, comme Southland, comme Son of Anarchy, comme plein de séries de ce genre.
Pour TF6, ils ont quand même lancé les frères Scott, ils ont lancé quand même pas mal de séries, même en première diffusion, ils continuent, même par exemple, il y a New Girl, il y a.
Oui, tout à fait, Doctor. Ouais.
Tu veux, ils ont ce catalogue, et je pense que ce catalogue va finir chez Série Club d'ailleurs.
Bah, et va finir également dans l'escarcelle de la nouvelle chaîne Canal Plus Série.
Il y en a déjà qui sont déjà des escarcelles de Canal, parce qu'ils diffusent The Walking Dead, ils diffusent True Blood, ils diffusent des produits HBO qu'on retrouve sur OCS qui maintenant sont diffusés sur Canal Plus Série. Mais si tu veux, le problème qu'il y a, c'est que la chaîne, le concept de la chaîne, maintenant tu le retrouves sur NT1, sur W9, sur NRJ12, surtout NRJ12.
Voilà, toute la TNT.
Surtout NRJ12, HD1, Sister. J'ai l'impression qu'en fait avec TF6, M6 et TF1 ont testé le principe de la mini généraliste et que maintenant ça vaut plus le coup de payer pour avoir une chaîne vu qu'il y en a toute une multitude en gratuite. Bah, autant à fermer, quoi.
Je comprendrais. Du sport dans le programme.
Alors au niveau des séries, troisième saison d'American Horror Story.
Yes.
C'est ce soir sur Ciné Plus Frisson. À 20h45, donc.
Putain, j'ai adressé mon abonnement.
Eh, t'as les boules.
Allez.
Mais une nouvelle série, enfin, c'est plutôt une mini-série, parce que la première saison ne fait que 3 épisodes. Ça s'appelle Black Mirror. Ce sera diffusé sur France 4 jeudi prochain à 22h35. Alors, c'est créé par Charlie Brook. J'ai pas eu le temps de trop m'y.
Charlie Brook, c'était Brooker, oui. C'est un mec qui faisait plutôt l'humour. On lui a confié une mini-série d'horreur de 5 épisodes sur Channel 4 et ça a bien marché. Là, il a fait cette série absolument stupéfiante qui parle d'internet au niveau sociétal.
Ça ne parle pas que d'internet. En fait, le Black Mirror, c'est le miroir noir. Et en fait, c'est l'image qui reflétée par un écran qui est noir. En fait, que ce soit un écran de télé, que ce soit un écran d'ordinateur, que ce soit un écran de je sais pas, de trucs de surveillance d'appareils photo, tous les écrans qui gèrent et qui dirigent plus ou moins nos vies actuellement, quoi. Et donc il va prendre des cas de figure où l'écran ne sert plus à rien, quoi, où l'écran se retrouve noir, l'état de manque par rapport à ces choses-là. Bref, ça peut être assez sympathique, hein, le concept est très très intéressant.
Tu veux dire que quelqu'un a coupé le fusible a sauté? C'est à peu près ça, là ce que tu me décris, c'est quand j'ai le fusible qui a sauté là.
Non, on a tapé sur l'unité centrale et puis quoi, t'as le truc qui est déconnecté, l'écran il devient noir, quoi, tu vois, quoi.
Ouais, bah, ça arrive quand t'as pas de jus, quoi.
J'enverrai la bande-annonce sur YouTube Channel 4, parce que une fois de plus, Channel 4, chaîne équivalente d'AM6, mais très artistique, et ils ont fait une bande-annonce qui est absolument sublime au niveau de la production. C'est dommage que France 4 ne la diffuse pas. Et encore une fois, regardez en VO. La deuxième saison est en cours de diffusion actuellement d'ailleurs en Angleterre.
Oui. Hein. C'est-à-dire que il y a que 3 épisodes, mais ça tourne déjà quoi pour les prochaines saisons, avec peut-être plus d'épisodes. On attaque les films à présent, hein, mon gars, si tu veux quoi. La semaine télévisuelle.
Oui. Pardon. Non, parce que qu'est-ce que tu disais, pardon?
Black Mirror.
Ouais.
C'est pas le truc que tu as pas arrêté de spammer la timeline là, il y a pas au moment de la diffusion de Sherlock.
Si.
Ah ben voilà. Les grands esprits se rencontrent. Alors ce soir, à part American Horror Story quoi pour les fondus quoi de la série. Il y a également sur Sci-Fi.
Vas-y.
Sur Sci-Fi ce soir, une thématique consacrée au temps. Eh ouais, le time. Prisonnier du temps, tout d'abord, le film de Richard Donner en 2002 avec Frances O'Connor, Paul Walker, il était encore vivant à cette époque-là, Gerald Butler, Billy Connolly, suivi de La machine à remonter le temps de Simon Wells, donc d'après le bouquin de l'arrière-grand-père du réalisateur, un certain H.G. Wells, avec Guy Pearce, Marc Addy. On a également ce soir sur Ciné Plus Classique, c'est une petite curiosité qui vaut peut-être le coup. C'est à 22h20 sur Ciné Plus Classique, donc La femme nue et Satan. Un film de Victor Trivas de 1959. Victor Trivas est un immigré russe qui ensuite est arrivé en Allemagne parce que il n'aimait même pas trop les bolcheviks, on va dire. Et manque de bol, quoi. D'abord, il commence sa carrière dans le cinéma, quoi, comme machiniste, les petits boulots, quoi. Et il arrive en 1931 à réaliser un film qui s'appelle Niemandsland en version originale, c'est-à-dire allemande, quoi, puisque c'est un film allemand. Et dans ce film, il prône la paix entre les peuples, les trucs comme ça et tout, quoi. Le film est interdit et toutes les copies sont brûlées, quoi, par les sbires de Hitler. Qui n'était pas encore au pouvoir à l'époque, mais qui avait déjà la mainmise sur certains secteurs, on va dire, quoi.
Oui.
Avait les choses facilitées. Alors du coup, il se barre, il se retrouve en France où il réussit à tourner un petit film en 1933 qui s'appelle Dans les rues, quoi, un petit peu dans l'inspiration réaliste de Julien Duvivier, des mecs comme ça, quoi. Et quand les Allemands se décident à venir envahir notre charmant pays, il se dit je me barre aux États-Unis. Donc il se barre aux États-Unis. Là, il va faire une bonne carrière de scénariste quand même. Il revient en Allemagne dans les années 50 et donc il réalise ce film La femme nue et Satan en 1959, qui est son dernier film, hein. Je veux dire, il a fait 3 films dans sa carrière, quoi, en tant que réalisateur, avec Christine Maybach, Horst Frank et Michel Simon. Une histoire de plus ou moins de savants fous qui cherchent à c'est la thématique de Frankenstein de toute façon, quoi. Mais avec des variantes qui sont tout à fait personnelles. Donc c'est un film qui a l'air très très intéressant. Sur Ciné Plus Classique ce soir à 22h20. Sinon, un documentaire sur Ciné FX ce soir à 20h50. Hollywood se déchaîne à Manille, un documentaire australien de Mark Hatley et qui en fait concerne tous les films que Hollywood est allé tourner à Manille, aux Philippines, tous les films d'exploitation des années 60.
D'exploitation, ouais.
Années 60, 70, quoi. Rappelez-vous toute cette série des femmes en prison, Women's in Cage, The Bird, Big Doll House, et tout ça, mais pas que, hein, parce que t'avais pas que ce truc-là, t'avais les films de guerre, n'importe quoi. Donc, ça peut s'avérer assez intéressant, c'est ce soir à 20h50. Demain, sur les deux grosses chaînes, c'est le Full Frontal entre Marvel contre Marvel, hein, ouais. Spider-Man 3 contre Captain America. À ton avis, qui gagne?
Oh, ah, attends. C'est dur là. Là, ça va être c'est difficile parce que t'as le Spider-Man 2 qui est en train de sortir, qui est sorti au cinéma. Tu as
le Captain America n'est pratiquement plus diffusé. Donc, voilà.
Mais Captain
On le trouve non, à 19h.
Captain America a été diffusé la semaine dernière en prime time sur je sais plus quelle chaîne où il y a deux semaines, hein, quoi.
Ah, d'accord.
Ah, si, hein, là, pour l'instant, ça tourne pas mal, quoi. Alors, sinon, sur TCM, une bonne soirée de films de guerre. Ouais, un qui est, on va dire,
une bonne soirée,
entre les deux. Entre les deux, parce qu'il y a les points de vue de chacun des bellicistes. C'est Tora, le film de
Tora Part.
Richard Fleischer, Kinji Fukasaku et Toshio Masuada avec Jason Robards, Martin Balsam, Toshiro Mifume, enfin bon, bref quoi, un des moments clés de la bataille du Pacifique, suivi à 23h du film de Mark Robson, Les Centurions en 1966, hein, c'est tiré du bouquin de Jean Lartegui du même nom, qui raconte l'histoire de d'anciens d'Indochine qui se retrouvent en Algérie. Et y en a qui sont ok pour ce qui se passe et d'autres qui sont pas tellement ok. Alors avec le casting à toute épreuve, hein, quand même, Anthony Quinn, Alain Delon, Michel Morgan, puis beaucoup d'autres, quoi. Alors le bouquin déjà est bon, est nettement situé d'un seul côté, quoi. Hein, c'est le côté de l'armée française. On est d'accord, mais Mark Robson, lui, il est ricain et en 66, ça fait que 4 ans hein, que les événements en Algérie, comme on disait à l'époque, étaient terminés avec les accords d'Évian, quoi. Les films qui concernent cette époque en France, on n'en a pas beaucoup vu. Si, la bataille d'Alger de Gilles Pontecorvo à la fin des années 60 qui a été interdit et qu'on n'a pas pu voir en salle avant les années 90, quoi. Mais bref, les ricains de ce côté-là étaient nettement plus réalistes, on va dire, hein, plus pragmatiques. Donc c'est un film à voir et tout, mais sans plus, parce que le parti pris est tout à fait évident, et du côté des colonialistes. Action, on vous propose également demain soir à 20h50. Alors c'est pas mal parce que j'ai l'impression qu'ils font une petite série de films russes, de films d'action russes, ou de films d'époque russes. Et là, ils nous sortent Le Prince Yaroslav demain soir à 20h50 de Dmitri Korobkin, film récent de 2010 avec Alexandre Ivachevski, un film qui nous remonte dans les périodes qui suivent juste Ivan le Terrible, des trucs comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est plus du médiéval, mais enfin bon, c'est pas encore franchement moderne, quoi. Hein. Lundi sur Arte, Blue Valentine de Derek Cianfrance. Derek Cianfrance, c'est son premier film, son deuxième. Ça a été une tuerie pour moi, quoi, du moins, et pas mal d'autres gens. C'est The Place Beyond the Pines.
Ah oui!
Avec Ryan Gosling, le premier, déjà, Ryan Gosling et Michelle Williams, donc, et John Doman, entre autres. Là, c'est plutôt une histoire de bluette, un petit peu contrariée, enfin, un truc comme ça et tout, quoi. C'est vraiment plus un film à la française ou à l'européenne qu'à l'américaine. Mais c'est suivi par un film pur produit d'exploitation américain, mais comme on les adore, c'est Panique à sur Florida Beach, le film de Joe Dante, comment revisiter les mythes et tout ça, quoi, se replonger dans une époque révolue et tout, avec John Goodman, Cathy Moriarty, Kelly Martin, qui était très très jeune à l'époque, hein, jouait le rôle d'une ado dans ce film. Sinon, lundi, sur OCS Géant, pour les gens qui connaissent toujours pas, Voler au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman, allez-y, hein, ça vaut le coup, là, vous allez prendre une claque énorme. Tiré du bouquin de Tom Wolfe avec Nicholson, Wes Fletcher, Danny DeVito et beaucoup d'autres.
D'habitude, ils sont plutôt sur City pour Game of Thrones.
Oui, mais enfin bon, ils feront un effort, quoi. C'est tout, quoi. Sinon, sur Paramount Channel, toujours lundi, Traître sur commande de Martin Ritt. Avec Sean Connery, Richard Harris et Samantha Egar, entre autres. Alors, c'est un film qui relate un petit peu, quoi, une grève dans les mines en Pennsylvanie en 1870 et tout, quoi. Les mineurs étaient en majeure partie des Irlandais, hein. C'est pour ça que le titre original du film, c'est The Molly Maguires. Et en fait, Sean Connery est là pour infiltrer un petit peu le mouvement, quoi, justement, pour essayer de casser la grève et essayer de donner le nom, quoi, des meneurs pour qu'ils se fassent descendre, quoi. Bon, à l'époque, c'était super violent, quoi. Et Martin Ritt, en fait, c'est un réalisateur qui, lui, a toujours été un petit peu dans la même thématique. C'est la branche franchement libérale, démocrate libérale de gauche, on pourrait dire, des réalisateurs américains. Il a même été sur la liste noire des réalisateurs de Hollywood à une certaine époque, parce que bon, bah ok, c'était trop chaud, quoi. C'est pour ça qu'il a commencé à faire des films qu'à partir des années 60, quand ça s'est un petit peu calmé, on va dire. Mais c'est un très 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 bon film, hein, de toute façon, quoi. On a également sur Polar un excellent film de Preminger, c'est Bunny Lake a disparu, avec Laurence Olivier, Caroline Linet et Kyr Dullier. Un film de 65 là qui est vraiment super.
Ah ouais, et Laurence Olivier devait être au top à ce moment-là, donc sauf erreur.
Tu comprends que c'est le mec qui faisait tomber les nanas, quoi.
Ah
à
oui.
À cette époque-là, y a pas de problème.
En
quoi.
Plus de faire tomber les critiques chaque fois qu'il était sur scène pour faire du Shakespeare.
Ah ouais. Mardi sur Paris Première, Point Break. Ah, c'est rien, j'ai reçu un message. Point Break de Catherine Bigelow, ouais, toujours plaisir à voir, hein, de toute façon. Ou alors sur
le film préféré de Brice.
Ou alors sur numéro 23, à 20h40, Clara et moi, un film d'Arnaud Viard avec Julien Boisselier et Julie Gaillet. Dès 17, je vous propose Le Dernier des Dragons. Ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là, le film d'Isaac Fiorentine avec Dolph Lundgren en guerrier post-apo et un Kari Hiroyuki Tagawa qui a un uniforme qui me rappelle un peu le tien quand tu t'appelles Das Kritsch d'ailleurs.
Okay, pour ceux qui n'ont pas la couleur, il est en noir et blanc.
Sur Comédie, mardi prochain, L'homme qui en savait trop peu de John Amiel. film entièrement dédié à Bill Murray et à son génie comique. Un
ricain
qui débarque à Londres et puis qui.
Lost in Translation avant l'heure.
Qui se retrouve pris pour ce qu'il n'est pas, quoi. Pour faire très très court, avec Joanne Wally Kilmer. Étant comme avec Kilmer Val à l'époque et Peter Gallagher. OC Choc vous propose Layer Cake. Ah ouais, cool, quoi.
David Cranston.
Hein?
J'ai le massacré. Je vais encore le massacrer. Daniel Craig,
Colminet, Tom Hardy, Kenneth Cranham. Ça, c'est du casting qui. Ouais, je dirais rien d'autre. OCS Géant vous propose à 20h40 L'Appel de l'Or. Un film d'Edward Ludwig. En 1954.
À ne pas confondre avec L'Or à l'appel.
Le titre original, c'est Jivaro, et c'est une aventure.
Quand tu vois l'illustration qui est fournie.
C'est une aventure qui se déroule en Amazonie, bien sûr, ça s'appelle Jivaro, mais c'est surtout l'acteur principal qui va retenir votre attention. C'est le père de Lorenzo, Fernando Lamas, avec Rhonda Fleming et Lon Chaney Jr. Encore une occasion de vérifier que. Des fois, le talent, ça ne se lègue pas comme ça par la génétique. Hein. Bon, il a fait ce qu'il a pu, mais bon, ça a pas marché, quoi. Mercredi sur Arte, There Will Be Blood de P.T. Anderson. Bon, ok, hein, rien à dire. Deux Oscars, dont celui de Daniel Day-Lewis pour le meilleur acteur. D17 vous propose Atomic Train de Dick Lowry et David Jackson avec un téléfilm en deux parties. Alors, deux parties, c'est-à-dire deux fois 1h30 pour expliquer comment Rob Lowe, Christine Davis et Esaï Morales ils vont faire pour que la ville de Denver elle soit pas explosée par un train qui est bourré de produits chimiques et de machin. Alors, tu vois pas le rapport avec Atomic au départ, déjà. Et ensuite... Imagine-toi 3 heures pour tenir, quoi, alors que c'est juste un train qui va arriver et qui va tout exploser dans la gare et puis ou ailleurs, quoi.
Je l'ai déjà vu sur un jour de fête férié. Oui, j'ai eu le malheur de regarder ça. Oui, mais j'étais fatigué. J'ai eu le malheur.
Ou alors t'es pervers parce qu'il y a un Roblox.
Non.
Ok. Sinon, séance de rattrapage pour les incultes qui n'ont jamais vu Game of Thrones, ça démarre sur D17 mercredi prochain à 23h50.
C'est pas
saison 1, épisode 1.
Ouais, mais ça va être allégé à tous les coups. Voilà. À quelle heure?
Ah non, 23h50 à mon avis. Et c'est en version originale, hein, de toute façon, en version multilingue. Ciné Plus Club, c'est toujours mercredi prochain et ça c'est nettement plus intéressant, c'est à 20h45. Ça s'appelle Nouvelle Cuisine, c'est un film de Fruit Chan qui était sorti en 2005. La nouvelle école du cinéma hongkongais, quoi, avec Miriam Yong, Bai Ling, Tony Leung.
C'est la réponse, c'est un chinois lors de Wong Kar-wai.
Tu as pas vu ce, t'as jamais jeté un. Moi, je suis tombé dessus une fois par hasard et puis putain, je suis resté scotché, quoi.
Sur Nouvelle Cuisine, non, je l'ai pas vu.
Non, mais vraiment, quoi, parce que bon, au départ, ça pas cool, quoi, c'est-à-dire la relation des sentiments avec le fait de manger, de préparer à manger, des trucs comme ça. Et puis au fur et à mesure, ça tombe un petit peu plus gore, quoi. Tu te dis, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Non, vraiment, c'est très très intéressant. OCS, choc, mercredi prochain à 20h40, The Killer Inside Me de Michael Winterbottom. excellente adaptation de Jim Thompson. C'est pas terrible, terrible, c'est pas une tuerie quoi, mais ça, ça vaut le coup d'œil quand même. Avec Casey Affleck, Kate Hudson, Jessica Alba, Ned Beatty, Elias Koteas, hein, bon, c'est pas mal. Et sur TCM, Sierra Torrid de Don Siegel, une de ses premières rencontres avec Clint Eastwood. Dans ce western où Clint Eastwood aide plus ou moins des révolutionnaires et va tomber sur Shirley MacLaine qui est une bonne sœur, on va dire. Enfin bon, elle est pas en habit de bonne sœur, elle est un petit, elle est défroquée, mais enfin bon, elle est quand même très très religieuse. D'ailleurs, le titre original, c'est Two Mules for Sister Sarah. C'est sur TCM mercredi prochain à 20h40 et sur FX. Le film que Xavier ne pas louper pour le rien au monde signale une aventure dans l'espace de Gerhard Kolditz. Yeah, film de science-fiction allemand de 1970.
Avec allemand de l'Est, il me semble.
Peut-être, ouais, parce que j'ai cherché Kolditz, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai, dans mes livres, quoi. Pas sur le net, quoi. Jeudi sur Canal Plus Family à 20h45 les Croods.
J'aurais pu essayer de le retrouver, mais bon, tant pis.
Ouais, mais on n'a pas le temps. Les Croods, excellent film d'animation. Je sais pas si vous vous rappelez, c'est sorti l'année dernière, hein, les Croods. L'histoire de la rencontre entre une famille d'hommes préhistoriques, et puis ils doivent fuir. Mais le au départ, le scénario, pratiquement, on va dire, ça tient sur un fil. Le scénario, c'est le pitch, quoi. Le pitch, c'est le scénario. Après, tu te rends compte que bah il y a quelque chose qui est développé dans ce truc-là, quoi. En dehors de l'aspect visuel, qui est bon, bien sûr, dans ces films d'animation maintenant, quoi, qui t'en filent plein la patate et tout, quoi, et qui sont vraiment très très bien faits, quoi, au niveau des décors, des animaux, des plantes un petit peu zarbi que tu trouves pas, quoi, parce que bon, c'est préhistorique, tu peux inventer ce que tu veux, n'importe quoi. Là, c'est vraiment une réussite, quoi. Et l'histoire, en plus, quoi, qui au départ apparaît comme étant bateau, quoi, on va dire, eh ben, tu te rends compte que sur la distance, ça tient la route, quoi. Donc, c'est sur Canal Plus Family, jeudi prochain, à 20h45. Sifi vous propose, à 20h45 également, jeudi prochain, Secousse Sismique de David Michael Latt avec Brittany Murphy, Eric Lassalle. Ah ouais, et Bruce Davison. Ah. Sinon, sur Ciné Plus Classique, là, c'est plus intéressant quand même. À 20h45, bof, Anatomie d'un livreur. Alors, le film original, quand il est sorti, c'était simplement sur l'affiche, t'avais marqué bof.
Ouais.
C'est un film de Claude Faraldo en 71 avec Paul Crochet, Julien Negulesco et Marie Dubois. Claude Faraldo est un réalisateur qui était nettement libertaire et gauchiste, hein, qui a sorti plusieurs films, dont le premier en 65, mais il n'est jamais sorti en salle. Et après, bah, il s'est lancé à partir des années 70 dans cette vague de films vraiment libertaires contestataires. Alors, il y a eu justement Bof. Ensuite, il y a eu Thème Rock en 73 et Tabarnak en 75, un film tourné au Québec. Mais les films qui étaient adorés par les lecteurs de Libé de l'époque, les lecteurs de Charlie. Enfin, c'était la mouvance de l'époque, hein, de toute façon. Films qu'on pouvait voir uniquement dans les salles d'art et essai qui voulaient bien diffuser ce genre de films parce que bon, ça attirait vraiment plein de gauchistes. Cinéfix, jeudi prochain, vous propose Les Mercenaires de l'espace à 20h50, un film de J.T. Murakami. Qui, comme son nom n'indique pas, eh ben, c'est quand même un film américain avec Richard Thomas, John Saxon et Darlan Flugel. Darlan Flugel qu'on retrouve dans Police Fédérale Los Angeles de Friedkin. C'est la copine de William Peterson. Ben ouais. Vendredi, on termine avec Canal Plus Family qui propose à 22h15 CJ7, le film de Stephen Chow qui est vraiment magnifique. Alors, si vous l'avez pas vu, vraiment regardez-le. Si vous êtes un habitué des Stephen Chow, quoi, Shaolin Soccer, Bombay Z Pékin,
Tu confonds avec un Charlot.
Hein?
Tu confonds avec un Charlot, là.
Non, Stephen Chow. Oh, Shaolin Soccer, après il y a eu.
Ouais, mais Bombay Z Pékin, c'est aussi. Non, ils avaient fait Bombay Z de Hong Kong, mais.
Non, Bombay Z de Pékin, justement, je crois qu'il s'appelle comme ça, quoi. C'est. Et là, ben, c'est également bon, un film avec l'humour, quoi, qu'on connaît de Stephen Chow, mais il y a vraiment quelques moments très tendres et tout, quoi. Une relation de père-fils qui est vraiment développée, quoi. En fait, l'histoire est très simple, hein. Stephen Chow joue le rôle d'un ouvrier du bâtiment qui est très très pauvre. Le mec, il va ramasser dans les ordures et tout, quoi, de quoi faire bouffer son fils, quoi. Vraiment, et il trouve un jouet comme ça, quoi. Et une peluche, il croit que c'est une peluche et tout, quoi. Puis bon, il le file à son gosse et tout, c'est son cadeau et tout. En fait, il s'agit d'un extraterrestre, quoi. et qui s'appelle CJ7 quoi. Et donc il va se passer plein de choses et tout, mais c'est vraiment un film poétique assez magnifique quoi. Et en même temps quoi, c'est un film qui est très très drôle, même s'il y a à un moment quoi un truc qui est vraiment dramatique, hein, on drame un moment dans le film qui vraiment pourrait toucher quoi, mais Stephen Chow arrive à prendre même le contrepoint de ce truc pour en faire un événement qui est presque comique quoi. C'est ça qui est énorme quoi. C'est pour ça que ce film est très très bien quoi, et que bon, je comprends pas qu'on l'ait pas plus poussé ce film par rapport aux autres Stephen Chow qui sont plus connus, comme Shaolin Soccer que tout le monde connaît quoi, à mon avis quoi.
13h50 sur Radio FMR.
RTL9 vendredi prochain 20h40, bah on est dans les numéro 9 un film d'animation de Shane Dacre, un film d'animation un petit peu futuriste on va dire, qui est aussi assez sympathique. Sur Sci-Fi, vendredi prochain à 23h10, le très beau Moon de Duncan Jones avec Sam Rockwell, Rosie Shaw et Benedict Wong. Ou alors, sur Ciné Plus Premier, John Carter de Andrew Stanton, quoi, que moi j'ai bien apprécié, que c'est vraiment un très très bon film, quoi. Il y a rien à dire dessus, même s'il a paumé du fric, bah c'est parce qu'il en croit investi.
Il n'y a rien à dire, mais il va quand même faire 3 minutes 30 dessus.
Ouais. Ou alors, sur Ciné Plus Classique, La Victoire en Chantant, quoi. Je parle de Jean-Jacques Hano.
Non, il va pleuvoir.
Je parle de Jean-Jacques Hano, je parle de son
commence déjà, alors.
Premier film, je parle du fait qu'en ce moment on célèbre le début de la deuxième, de la première guerre mondiale. Ben là, on est en 1915, mais seulement on est en Afrique et on est du côté des colons, vu que on est du côté des Français qui sont en train de coloniser, mais qui sont là très très loin. Donc eux ils suivent la guerre, mais
de loin. À distance.
Très très loin, à distance, quoi.
Et voire même ils échangent quelques bières avec les Allemands.
Voilà, c'est
que
ça. Et même les rapports qu'ils ont avec les Allemands, qui sont également des colonisateurs, qui ont des frontières communes. Ouais. Non, parce que là, ils sont plutôt du côté de la Mauritanie, du Sahel, Cameroun. Comme ça, quoi.
Ouais.
Alors donc, c'est assez rigolo avec le casting excellent. Jean Carmet, Jacques Spicer, Jacques Dufilho, Dora Dole et beaucoup d'autres, quoi. Mais vraiment, c'est un film qui est excellent quoi. Et bon à l'époque c'est avant la guerre du feu et tous les films que Jean-Jacques Hano a fait, hein, bien sûr. Et là vraiment c'était côté gauche quoi, on va dire, hein, le propos quoi, de toute façon. Sur OCS Choc vendredi prochain, Boxeur Muay Thai Chaya, un film thaïlandais de Kai Kom Siri avec Akara Amartayoakul et Santaya Chitmani. Tu vois, je l'ai dit sans.
Ça fait un joli exercice de prononciation.
Ouais, mais il est bien vendu, en tout cas, quoi. Ça donne envie de le voir. Au CSG, on propose le gros classique de Jacques Tourneur, La Féline, hein, à 20h40 vendredi prochain. Ou sur Paramount Channel, Le Chasseur de Bouskoulik, le dernier film de Steve McQueen. Avec Elie Wallach, Catherine Herold et tout quoi, mais qui est pas mal, hein. Il y a la scène dans le métro là quoi, aérien là, les cascades, c'est pas mal, hein. Je veux dire, il mettait la main à la pâte encore à l'époque quoi, tu vois. Pourtant il était déjà malade, il a déjà le cancer et tout quoi, donc ça dépote. Ou alors sur FX à 21h, on en parlait il y a 15 jours me semble-t-il, ou 3 semaines. C'est Dark Crystal de Francoz et Jim Henson.
C'était il y a trois
semaines.
Il y a trois semaines. C'était à propos justement là de l'émission sur Sci-Fi, à propos des Henson Workshop Competition. Et Dark Crystal, c'était le premier long métrage qu'ils avaient produit par eux-mêmes. Film qui était vraiment fait en animation. Il y avait déjà une collaboration sur une partie des effets spéciaux avec LucasArts, puisque en fait ils bossaient aussi sur Star Wars. Et film absolument sublime. Et regardez bien les sages et les méchants. Regardez, comptez jusqu'au nombre de doigts à la fin. Il y a plein de symboliques qui est extrêmement intéressant. Et c'est un très beau film. Il est toujours très beau à redécouvrir. À mon sens, moi je m'en lasse pas. Hein. Ça fait 30 ans que j'ai vu la première fois. C'est toujours intéressant à re-regarder. Et sublime d'animation. Et à l'époque, très peu de choses se faisaient sur ordinateur.
C'est clair. Et pour terminer, sur Action, là, il n'y a pas besoin de compter les doigts. C'est La Main de Fer de Chang Cheou avec Lo Lien.
Oh, joli.
Un grand classique du Kung Fu d'époque. Hein. Et Lo Lien, lui, il faisait pas dans la dentelle, quoi. Et quand même très gracieux, quoi, le mec, hein, faut dire, quoi. Et c'est suivi d'un documentaire qui s'appelle La Fureur de filmer, spécial, les films de Kung Fu à 22h35 sur Action.
Pas mal.
Un peu logique.
C'est la semaine prochaine. Et ce sera tout pour cette semaine.
Ah, tiens, j'aurais cru Matrix sur TCM vendredi soir.
On en a déjà parlé.
Rappelle que tout à l'heure, donc à 15h à la librairie Terre de Légende, ça c'est pour ceux qui sont sur Toulouse, Paul Coé dédicacera Les Vieux Fourneaux. C'est une nouvelle série qui est sortie chez Dargo, avec un scénario de Lupino et... Mais te taille pas! Mais qui me fait le résumé, là!
Bon, je sens que ça va encore être moi. Je remplace du sport.
Ah, d'accord, ok. Bon. oui, puisque nous approchons de la fin de cette émission numéro 384 du Supplément Week-end en ce 26 avril 2014 sur FMR 89. Mais ma foi, une facette grande, peux-tu tenter de faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission en cours de route ou
tenter,
qui l'ont écouté en diagonale?
Je vais tenter, mais c'est de la diagonale aussi. Alors, il y avait le livre et la rose. Il y avait Manuel Valls en manga, ça marche pas. Il y avait Walking Dead version canard. Il y avait Tintin prisonnier dans les geôles de Moulinsart. Il y avait une spinnerette et une super-héroïne, Victory Girl. Il y avait un magazine de foot mais pour ados. Et
pas que.
Il y avait aussi, comment il s'appelle déjà le bouquin, News?
Hein?
Ah, il est où?
Bah tant pis, enchaîne.
Ah, c'est pas grave. Il y avait aussi.
C'est censé être rapide.
Ouais,
rapide,
je sais,
c'est un résumé des titres.
On dit adieu à TF6 et on a fait le tour. Allez, voilà.
Pas facile. Nom d'un sprint qui est pas évident à faire quand même, non, en finale, quand même, surtout qu'il faut le préparer.
Oui.
Si vous avez manqué tout ça, heureusement, grâce à la diffusion différée et à l'écoute à la demande, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission, mais aussi les précédentes, nos chroniques écrites, et c'est vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web.
Thomas revient.
Suppléments-weekend.fr, sans accent ni tiré, suppléments-weekend.fr. Vous écoutez FMR sur 89,1 mégacycle en modulation de fréquence analogique. Nous partageons cette fréquence en direct et en alternance avec Booster FM. Et nous sommes en continu sur www.radio-fmr.net. La semaine prochaine, je ne sais pas encore.
Je vais essayer de chercher quelque chose, mais...
Je pense que peut-être qu'Ultimatum sera revenu. Du sport, lui, c'est barré, voilà.
Le téléphone sur silencieux quand on est à l'antenne, c'est quand même pas difficile, bordel. Thomas, reviens, je t'en supplie. J'arrive pas à le trouver, là. Faut que j'y aille, faut que je fasse la séparation là.
Ah, ouais. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, 13h56 minutes du sport à exactement 4 secondes. 3 minutes, pardon, pour prendre la suite.
Ça va être plus.
Tu sais, tu démerdes.